Avant de commencer cet épisode et de retrouver Raphaël, mon binôme du jour, une petite annonce promo, mais promo intéressante pour vous, puisque jusqu'à dimanche, on a un code promo avec notre partenaire PMU.fr qui fait une offre spéciale pour encore quelques jours. Donc voilà, si vous voulez en profiter, ça peut être intéressant. C'est bon d'inscription. Si vous n'êtes pas inscrit, quand vous arrivez sur le site PMU, il y a un code sport. Vous l'enlevez, vous le remplacez par VDB, comme vue du banc, les initiales de ce podcast. Et si vous mettez le code VDB en vous inscrivant, vous recevez 3 free bets de 10 euros en plus de l'offre de bienvenue. C'est pour vous, si jamais vous n'êtes pas inscrit, vous connaissez des gens qui ne sont pas inscrits. Voilà, on passe tout de suite au podcast, retour de nos thématiques habituelles.
Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Salut à tous, bienvenue pour le 17e épisode de la saison 6 de Vue du banc, un épisode en binôme avec mon ami Raphaël Cosmidis de l'équipe et du Red Stars, du Raphaël.
Salut Christophe.
Puisque le troisième homme, Florent Tenuti, est encore en Ouganda pour accompagner la sélection de Djibouti. Et il nous en parlera lui-même un petit peu plus tard dans cet épisode, puisqu'il a enregistré un petit, alors c'est pas un vlog, mais c'est un petit, quelques petits messages, on lui a posé des questions par écrit, et puis il nous a enregistré ses réponses pour faire un petit point sur son aventure là-bas. Mais avant toute chose, on va arriver au cœur de l'épisode, qui est consacré à la Ligue des Champions, puisque c'était la dernière journée de la phase de poule, la sixième et dernière journée, on enregistre, là, il est minuit 47, quelques heures après les derniers matchs du mercredi soir. On connaît tous les qualifiés, mais on va d'abord faire un point sur les clubs français, Raphaël, avant de faire un point sur les matchs des autres groupes et des derniers qualifiés, l'Atalanta, etc. Les clubs français, donc il y en a trois, il y en a deux qui passent. Le PSG, c'était attendu et c'était déjà acté depuis un petit moment. Lyon, qui s'est qualifié au dernier moment, un peu à l'arrache, mais qui s'est qualifié quand même. Et bon, dernier club, Lille, éliminé, pareil, ça on le savait depuis déjà quelques semaines. On va faire dans l'ordre des qualifiés par ordre temporel. D'abord le PSG. Bon, on n'a pas suivi leur match du soir. Victoire 5-0 face à Galatasaray. Apparemment, il n'y avait pas grand chose à dire de cette rencontre, puisque ce que nous disait Julien Momont dans nos conversations privées, c'est que Galatasaray était profondément nul et que ça aurait pu faire 8-0. Donc là-dessus, je ne sais pas si on a appris grand-chose à une telle opposition. Mais qu'est-ce que tu gardes, Raphaël, de cette phase de poule? Ou alors, même s'il n'y a pas eu de défaite au retour face à Madrid, ça ressemble un petit peu à celle qui avait eu, je crois que c'était l'an dernier face au Bayern, où à l'aller tu gagnes, t'es excellent, au retour ouais. C'est beaucoup plus difficile, et donc du coup c'est un petit peu difficile de savoir comment te situer par rapport à l'autre très gros club de la poule.
Ouais, c'était l'année d'avant, il me semble, c'était la dernière d'Emery, je crois, où ils ont le Bayern dans la poule, ça gagne à l'aller 3-0, Ancelotti est viré.
Il y a deux ans, effectivement.
Ouais, et lors du match retour, ça perd parce que notamment devant ça défend pas. Bah, je garde un peu la même histoire, c'est-à-dire que tu commences la phase de poule par un très bon match contre le Real Madrid où tu n'as ni Neymar ni Mbappé et tu t'appuies sur d'autres joueurs comme Sarabia, comme Di Maria pour faire des différences, pour défendre, pour participer à l'effort que ce soit offensivement ou défensivement. Et puis petit à petit, au fil de la poule, tu as tes stars qui reviennent, tu as Neymar et Mbappé qui reviennent, qui essayent de se réintégrer au projet de jeu, mais ils ont tellement d'influence et tellement de pouvoir sur cette équipe et ce club-là qui reprennent vraiment la charge et le contrôle du jeu, et c'est un jeu complètement différent qui se met en place, que ce soit sur le plan offensif ou que ce soit sur le plan défensif, où d'un coup tu défends plus à 6, 7, 8 que 10 joueurs de champ. Bon, finalement tu l'emportes là contre Galatasaray, et les retours qu'on a, c'est que ça a été peut-être un match encourageant et prometteur sur ce plan-là, de voir une équipe et non pas deux joueurs qui prennent vraiment le pas sur tout le reste, mais ça reste quand même la problématique principale de ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain.
Ouais, parce qu'il faut dire, pour donner vite fait, le 11, enfin pas donner tout le 11, mais il y avait Kurzawa à droite, Kwasi Paredes au milieu. Bon, c'est rien que ça. Je te dis que c'est pas forcément le visage qu'aura le PSG par la suite et que ça peut être intéressant de voir que tu as réussi à aligner un quatuor Neymar, Mbappé, Icardi, Sarabia. Alors, Sarabia plus ou moins à la place, si tu prends les quatre meilleurs joueurs, entre guillemets, à la place de Di Maria, mais en tout cas aligner les trois de tes stars offensives. Mais bon, faut voir face à une équipe qui sera capable de ressortir le ballon proprement, d'attaquer, etc. Puisque le problème, c'est pas forcément l'animation offensive, même si on peut espérer quand même avoir un truc encore plus fonctionnel entre Neymar, Mbappé et leurs partenaires, qui ne soient pas uniquement à se chercher tous les deux et à un petit peu oublier le collectif parfois, mais c'est surtout dans la capacité à bien défendre en premier rideau. Et pour ça, on n'a pas forcément eu, on avait parlé du 6 plus 4 du match face, je crois que c'est face au Real, qui rappelait un petit peu le
Ouais.
7 plus 3 qu'il y avait à l'époque avec la première ligne qui défendait pas du tout. Là, c'est même presque plus que la première ligne si t'en as 4 qui sont totalement déconnectés du jeu. Est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions en étant un peu comme ça sur une carotte géante tout à 3-4 joueurs qui attendent de l'autre côté? Ou est-ce qu'il faudra forcément passer par un autre type d'animation et forcer les mecs à défendre, à ton avis, pour passer huitième quart demi-finale, même si tu as un huitième qui pourrait a priori être plutôt facile. Enfin, tu as deux, trois équipes qui peuvent être battables même sans jouer au top. Quart demi-finale, logiquement, tu devras être très fonctionnel.
Dans l'absolu, je pense que tu peux, puisque le Real d'Ancelotti le fait un peu quand même. Le match qu'il gagne contre le Bayern de Guardiola, il me semble que c'est un peu ça le plan de jeu, Christophe. Je ne sais pas si tu as le même souvenir que moi, mais c'est 7 joueurs qui défendent, Benzema, Bale et Ronaldo qui restent très haut. Et à la perte du ballon, ça les vise directement et ça marque des buts comme ça. Le Barça 2015 l'a fait aussi un peu, avec Neymar, Suarez, Messi. Après, c'est des joueurs tellement décisifs et tellement sûrs dans ces niveaux-là, dans ces hauteurs-là, que tu pouvais t'appuyer sur eux. Est-ce que Neymar, Mbappé, Icardi, Neymar, Mbappé, Di Maria, tu les mets dans une même configuration, c'est aussi décisif et une garantie similaire à cela? Déjà, c'est une première question. Et deuxièmement, il y a 3-4 ans, Liverpool n'existait pas, City n'existait pas. Donc tu as vraiment d'autres équipes où les 11 joueurs défendent qui ont débarqué ou en tout cas qui sont revenus sur la scène européenne depuis quelques années. Faut se souvenir que quand le Real en 2014 est champion d'Europe, puis quand le Barça est champion d'Europe en 2015, Klopp est encore à Dortmund et il est sur la phase descendante. Et peut-être que s'il a une autre phase, bah finalement ces deux équipes, il les sort et ça fait autre chose. Donc c'est aussi des questions qui vont se poser sur cette phase-là. Mais quand tu lis les déclarations de Tuchel depuis quelques semaines, et notamment depuis le match contre le Real, où il avait dit bah demander à Verratti, Marquinhos si ça leur a plu de courir pour tous les autres, je pense qu'il a clairement changé d'optique, en tout cas de méthode. Où il met clairement les joueurs maintenant face à leurs responsabilités et il leur demande, ou en tout cas publiquement, après avoir ce qu'il dit dans le vestiaire et sur le terrain à l'entraînement, mais publiquement il demande à Neymar et Mbappé et compagnie de faire ces efforts-là. C'est déjà un premier changement de ton par rapport aux années précédentes où tu sentais que les entraîneurs avaient du mal à gérer l'ego et le pouvoir et le statut de ces joueurs-là dans le groupe qui, quelque part, sont plus puissants que l'entraîneur.
Sachant que la dynamique de l'équipe. Alors, en gros, tu avais un peu effectivement cette époque Real où tout le monde ne défendait pas forcément, mais ceux qui ne défendaient pas le faisaient payer à l'adversaire parce que les efforts qu'ils économisaient, ils arrivaient à convertir les occasions de l'autre côté. Du coup, ce n'était pas forcément gênant ces impasses-là. Là,
Puis t'avais
forcément.
aussi une ligne défensive assez exceptionnelle, et puis une
Oui, c'est
défense
ça.
centrale et un gardien qui faisait que tu pouvais tenir.
C'est ça. Bon, j'allais y venir. C'est qu'en fait, là, la saison dernière, et donc le tenant du titre, c'est une équipe qui a toute sa ligne offensive, qui au contraire défend énormément. Mais ça aurait tout aussi bien pu être le double tenant du titre, parce que je pense que ça se joue au-delà de la blessure hein, de Salah en finale. Ça se joue sur Karius en grande bonne partie. Et je pense que rien que le fait de remplacer Karius par Alisson. Si tu as Alisson sur la première des deux finales de Liverpool, peut-être que Liverpool est double tenant du titre. Et ce rôle-là du gardien, il est très important. Là-dessus, Paris a priori fait plutôt un bond en avant
Ouais.
avec Keylor Navas, qui est peut-être pas le meilleur gardien du monde, mais qui est en tout cas quelqu'un qui, dans les meilleurs matchs, sait hausser son niveau, comme le faisaient quasiment tous les Madrilènes à l'époque.
Oui, puisque ce que tu disais sur Liverpool et Karius, il faut se souvenir aussi des buts que le Real met en finale. Bon, il y a l'erreur de Karius, il y a le bicyclette de Bale. C'est quand même un match un peu hors du temps, tellement les événements entre. Bon, il y a Salah qui sort sur blessure, grosse clavicule, je crois, où il se fait péter l'épaule, un peu comme Kevin Love, je crois, en playoff il y a quelques années de ça. Derrière, il y a Karius qui, je crois, en plus, finit le match, enfin, fait la deuxième période, en tout cas, à partir du moment où il fait un peu n'importe quoi, à une commotion cérébrale. Donc, c'est un match un peu particulier. Mais ouais, t'as raison sur le fait que finalement, les équipes qui montent sur la scène européenne, et notamment Liverpool, qui fait deux finales de suite, qui aurait peut-être pu gagner les deux de suite, bon, après, on saura jamais. C'est un peu la même histoire que les Spurs 2013-2014 en NBA. Tu sais pas si, est-ce qu'ils, s'ils gagnent la première fois, ils retournent en finale la deuxième. Mais en effet, ouais, c'est le symbole de à quelle vitesse le foot européen change. Et entre le Real, Barça 2014-2015 et Liverpool maintenant et d'autres équipes, à quel point l'implication des attaquants peut vraiment t'amener beaucoup plus loin. Parce que Tottenham, c'est aussi la même histoire l'an dernier.
Pour finir, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as trouvé, toi qui es plutôt sympathisant, pas supporter, mais qui apprécie quand même le PSG, est-ce qu'une phase de poule comme ça t'intéresse, sachant qu'en plus les équipes 3 et 4, même si Bruges a tenté des choses, notamment dans le pressing, etc., une volonté d'être un peu plus agressif sans ballon, il y avait quand même un certain gap entre le niveau des deux meilleures équipes et les deux plus faibles. Concrètement, est-ce quand on arrivera en février, cette phase de poule-là, elle t'aura donné des indications pour l'une ou l'autre chose? Notamment par exemple pour le niveau du gardien, ou alors pas du tout, qu'on t'aura tellement remis à zéro que tu n'auras quasiment aucun souvenir de ces matchs qui viennent de se jouer.
Ouais, sur Kélian Navas, c'est quand même rassurant. Après, on n'avait pas trop de doutes sur lui. Ce qui est dommage, c'est que le match aller contre le Real arrive un peu trop vite en première journée. Je pense que s'il avait été en deuxième ou troisième, il aurait déjà permis d'apprendre plus de choses. Et c'est pour ça que l'écart entre les deux matchs contre le Real est assez criant. C'est que le premier, tu joues contre un Real qui n'est pas du tout prêt et qui d'ailleurs en championnat faisait un peu n'importe quoi à ce moment-là. Et le match retour, toi, t'as pas avancé, ou en tout cas, t'as limite régressé puisque t'as pas réussi à faire que la transition entre la période de Di Maria, Icardi, Sarabia et la période Neymar Mbappé se fasse de manière tranquille. Et du coup, c'est toi qui es dépassé par les progrès du Real sur le match retour. Donc c'est difficile de mesurer vraiment où en est le PSG. On sait toujours quelles sont les problématiques. On sait toujours pas si Tuchel va arriver à les résoudre. Emery n'avait pas réussi, Tuchel n'avait pas vraiment réussi l'an dernier. Et tu te retrouves un peu au même point, au même stade de la saison, c'est ça qui est un peu dommageable.
C'est vrai que pour parler, enfin juste pour donner vite fait le contexte du Real, c'est vrai qu'au-delà de certains problèmes de vestiaire, problèmes d'animation, il y avait des gros soucis défensifs. Et là, bon, j'ai fait un petit article sur Varane il y a quelques jours pour La Voix des Sports. Du coup, je m'étais plongé dans les stats. Et c'est vrai que depuis 6 matchs, si je dis pas de bêtises, le Real a pris 2 buts. Donc 2 buts en 6 matchs, c'est déjà pas énorme. Et en plus, les 2 buts, c'est une passe en retrait de Ramos, pas du tout appuyé, où Yann José la prend, dribble le gardien et marque dans le but vide. Et l'autre, c'est un coup de coude de Ramos dans la surface contre Alavés, absolument sans raison, qui donne penalty marqué par Lucas Pérez. Bon, c'était des matchs qui étaient remportés, mais c'est pour dire que même ces deux buts-là, c'est des erreurs individuelles qui sortent totalement de nulle part. Donc, dans l'absolu, le Real aurait même pu faire clean sheet sur les 6 derniers matchs. Ça
Et en
donne
plus,
aussi quand même une
ils
bonne
avaient une
tendance.
période, Christophe, où ils prenaient plus du tout de but, là, où ils avaient eu limite le record de cages inviolées, je crois que c'était Courtois qui était pas loin là, où ils n'avaient pas pris de but pendant je sais combien de minutes, il me semble, toute
Ouais,
compétition.
bah, je crois que ça se termine là-dessus en fait. Ça se termine sur la passe en retrait de Sergio Ramos, si je dis pas de bêtises. Si tu ajoutes en plus la Ligue des Champions, je crois que ça se joue à quelques minutes. Il me semble que c'est ça, parce qu'il y a eu aussi les deux victoires sans prendre de but face à Galatasaray. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le Real va mieux. On en parlera un petit peu plus tard de l'équipe espagnole. Et c'est vrai que le premier match est un peu en trompe-l'œil parce qu'il y a d'autres équipes qui ont pu, entre guillemets, balader le Real sur des assez longues séquences à l'époque, sans forcément que ça veuille dire quoi que ce soit sur leur niveau maximal et la capacité qu'elles auraient à lutter avec le Real en février ou en mars. Deuxième club français, Lyon. Moi, j'ai pas vu le match, mais toi, tu l'as vu. Qu'est-ce que
Oui.
tu peux nous dire? Moi, j'ai suivi ça sur les réseaux. C'était assez drôle parce que tous les supporters lyonnais étaient en dépression pendant 60 minutes. Finalement, ils se sont qualifiés et puis à peine la joie d'être qualifié. Alors, joie pas extatique, mais joie quand même est arrivée l'histoire Marcelo, l'espèce de tifo de Marcelo en âne, de paille, etc. Donc, un truc assez bordélique qui, du coup, nous a assez vite éloignés du terrain. Donc, si on retourne un peu sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé dans les choix de Garcia, dans les choix de compo et par rapport à ce qui s'était déroulé sur les premières rencontres de Ligue des Champions pour les Lyonnais.
Bah, sur les choix de compo, il y a eu la volonté de mettre Aouar et Depay dans des bonnes conditions. Alors la question c'était qui serait le troisième élément offensif derrière Dembélé. Finalement ça a été Terrier. Un milieu à deux, Touzard Mendes, donc pas de Cacré, et une ligne de 4 avec un latéral en faux pied, Raphaël. Danayer Andersen était à droite avec Lopez dans les buts. Ce qui est particulier sur ce match, c'est que Leipzig n'avait pas besoin de gagner. Il leur suffisait d'un match nul pour finir premier. S'ils perdaient contre OL, il me semble qu'ils passaient deuxième. Donc c'était le risque pour eux. Donc l'enjeu n'était pas non plus considérable pour Leipzig, surtout à partir du moment où ça mène 2-0 à la 33e minute. Et pourtant, à la fin du match, la possession, elle est pour Leipzig. T'as quand même 53% de possession, t'as 13 tirs partout. C'est-à-dire que dans un contexte où Lyon était beaucoup plus en danger et dans l'urgence du résultat, c'est limite Leipzig qui a plus pris l'initiative du jeu sur l'ensemble du match que Lyon. Et ça, c'est vraiment particulier. Bon, alors après, tu as eu les déclats de Rudi Garcia qui a dit oui, on s'attendait à prendre des buts, je l'avais dit à la causerie. Pourquoi pas? Je peux comprendre, ça peut étonner peut-être les supporters, mais c'est vrai que parfois c'est aussi une manière de dire aux joueurs, bah, même si on en prend, de toute façon, vous inquiétez pas, moi je sais que on risque de prendre des buts contre cette équipe, mais c'est notre capacité à se relever et à en marquer aussi qui va être importante. Ça peut être aussi un moyen de déstresser, de rassurer les joueurs si tu sens qu'à un moment tu vas prendre des buts et que malheureusement il faut arriver à s'en sortir. Parce que si tu pars de l'idée, genre on prend pas de but les gars pour se qualifier, à partir du moment où ton équipe prend un but, pour les réveiller ensuite et les relever, c'est difficile puisque tu avais bâti ton plan de jeu sur le fait de ne pas prendre de but. Donc je peux comprendre ce qu'il a dit, même si ça peut sembler maladroit et peut-être que ça l'est d'ailleurs. Mais je peux comprendre ça. Après, sur l'entame de match, t'es complètement dépassé par un Leipzig qui pourtant met pas l'intensité qu'il mettait en championnat habituellement, et tu pourras en parler Christophe parce que tu les as vus en championnat. Mais Julien et moi qui étions sur Facebook ensemble et qui parlions du match, on était un peu étonnés de voir un Leipzig très moyen et franchement décevant. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a joué à moitié, qui a pas mis l'intensité qu'on la voit mettre en championnat, qui a pas mis la qualité qu'on la voit mettre en championnat, parce que techniquement c'était quand même une faiblesse abyssale pour un match de Ligue des Champions qui est un 16e de finale finalement. C'était assez dramatique le niveau technique des joueurs. On peut parler de l'entrée d'Ampadu, qui fait une entrée mythique parce que tu as l'impression que c'est un make-a-wish et tu sais pas trop ce qu'il fait sur le terrain. Et il a été récompensé, enfin je sais pas, c'est son dernier match peut-être avant de changer de carrière, ou c'est un vie ma vie, enfin on sait pas trop. Mais il
C'est un
arrive.
problème des joueurs chevelus parce que notre ami, je crois que c'est Chong ou chose comme ça,
Ah
qui
oui.
était rentré pour Manchester face à Paris et qui a également beaucoup de cheveux, n'avait également pas marqué les mémoires sur ces quelques minutes. Enfin,
Ah
si, il
bah
les avait marqués, mais pas dans le bon sens.
là, c'est un joueur prêté par Chelsea. Donc peut-être que les clubs anglais ont des quotas, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'était étonnant de le voir rentrer en fin de match, de remplacer. Alors je sais pas si c'est en toute fin de match, mais il me semble que c'est. Voilà, il remplace. Attends, je vais te lire ça parce
Moi,
que.
je l'ai, il remplace Upamecano à la 55e.
Ouais, Upamecano qui avait déjà pris un carton jaune, donc c'est peut-être ça, il était peut-être sous. Il risquait de prendre un deuxième, d'être suspendu pour le huitième, donc Nagelsmann voulait éviter. Mais il fait une entrée mythique.
Après, il faut dire, je te coupe 3 secondes, mais qu'en plus, alors ça n'excuse pas forcément l'absence d'intensité, parce que, un, c'est quand même une composante essentielle de toutes les équipes du réseau Red Bull et notamment de Leipzig. Donc, du coup, à partir du moment où ton jeu se base beaucoup là-dessus, tu es quand même censé mettre le minimum, surtout en Ligue des Champions, où au-delà de la première place, il y a quand même des enjeux financiers sur les victoires, etc. Mais en plus, enfin, il y a eu un énorme turnover. Là, j'étais en train de plus ou moins de compter, j'ai à moitié oublié en cours de route, mais je crois que tu as 6 ou 7 titulaires qui. Enfin, il n'y a
Bah.
pas vraiment de titulaires à Leipzig, ça tourne beaucoup, mais 6 ou 7 joueurs qui avaient joué le dernier match,
Oui, mais
dont
par
certains
exemple,
comme Sabitzer qui sont titulaires réguliers qui n'étaient pas
par
là.
exemple, ouais, Sabitzer, Alstenberg, tu sais que c'est titulaire, Laimer, ça joue beaucoup, Schick, ça a tendance à jouer, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de joueurs qui
Récemment, ouais.
étaient pas là. Après, il y avait quand même du monde, il y avait
Oui,
Upamecano
bah, c'est un peu la caractéristique de Leipzig, c'est que tu as en gros 19 joueurs du même niveau. Là où tu peux prendre le truc par les deux bouts, en fait, tu peux dire, les Haïdara, par exemple, qui jouent assez peu cette saison, sera amené à mettre un peu plus d'intensité et un peu plus d'envie que les autres parce que justement, il veut gagner sa place. Mais d'un autre côté, bah, s'il ne joue pas trop d'habitude, c'est peut-être que justement, le titulaire habituel est meilleur, etc. Donc, tu peux le prendre par les deux bouts. Mais dans tous les cas, le fait est que Lyon a souffert contre une équipe qui était quand même un peu mixte, quoi, et qui n'est pas forcément au-delà du turnover, qui n'est pas forcément d'énormes repères de jeu. Sur toutes les lignes, genre Demme et Dara, ils n'ont pas forcément souvent joué ensemble, autant Werner Poulsen, oui. Nkunku, pas forcément dans cette position-là, c'est plutôt Sabitzer qui joue là, mais c'est vrai que Klostermann, pareil, dans l'axe, et Saraki sur le côté gauche, pareil, ça c'est un petit peu étonnant, c'est pas forcément le truc habituel. N'empêche que bon, Lyon a réussi l'essentiel, mais c'est vraiment le concours de circonstances d'une poule où tout le monde est un peu moyen, et les résultats ont fait que nul sur nul, tu gagnes à l'aller, tu perds au retour, tu pouvais te qualifier avec finalement un total de points qui normalement ne suffit pas.
Ouais, et puis en plus Lyon, alors contre une équipe qui a pas pressé de manière aussi intense que d'habitude, a rendu énormément de ballons, il y a eu beaucoup de jeux longs hasardeux, ça a visé Dembélé dans les airs. Je pense même pas que Dembélé soit un vrai joueur de tête. Je sais plus d'ailleurs, j'en parlais avec Twitter, je crois que c'était Pierre Prugnot qui est de l'équipe qui me disait, mais même son gabarit est trompeur parce qu'il fait 1m83 alors qu'on a l'impression qu'il en fait deux.
Hugo du Libéro, je sais plus, mais qui
Ah Hugo.
disait, je crois que
Ouais.
tu disais son gabarit est trompeur, enfin je sais plus, en gros.
Je disais qu'il n'avait pas le jeu de tête de son gabarit et lui-même nous disait qu'il n'a pas le gabarit de son gabarit. Je crois que
Oui, c'est
c'était
ça,
ça.
parce qu'en fait c'est un faux grand, mais c'est pas le seul, il y a quelques joueurs comme ça qui sont un peu costauds, tu les imagines grands et en fait non, non, pas du tout, ils font des tailles, ils sont plus petits que moi par exemple, quoi.
Ouais, mais dans tous les cas, ça a essayé de viser beaucoup de longs ballons sur lui. Alors est-ce que ça a essayé ou ça s'est résigné à faire ça? En tout cas, la première mi-temps a été assez immonde de la part de Lyon et dans l'ensemble, le niveau technique du match était assez nul. Et il symbolise un peu cette poule. Je trouve que même Leipzig, après t'auras ton avis aussi Christophe, mais n'a pas été en Ligue des Champions au niveau de ses matchs de championnat.
Non, je suis d'accord, je suis
Ils ont
d'accord.
fait des matchs assez moyens dans l'ensemble. Et Lyon a pas brillé du tout. Après un mi-temps, enfin, jusqu'à sa sortie, finalement, Touzard fait un match techniquement très très difficile. Mais techniquement, pas seulement avec le ballon, c'est-à-dire techniquement, défensivement. Comment il fait pour défendre sur des mecs qui essaient de se retourner? Comment il fait pour défendre sur des mecs qui sont un contre un dans sa zone, donc qui sur la prise de balle vont essayer de faire une différence? Comment il fait contre des mecs qui ont la vivacité pour faire des demi-tours sur eux-mêmes très rapidement? Bah, il n'y arrive pas tout simplement. Parce qu'il n'est pas vif, il n'est pas vif offensivement, mais il n'est pas vif défensivement. Et c'est un peu le profil du mec costaud qui court beaucoup et qui a l'air un peu désarticulé, donc t'as l'impression qu'il fait des kilomètres et qu'il fait beaucoup d'efforts. Mais il fait beaucoup d'efforts parce que c'est un peu un laborieux. Et du coup, alors ça donne envie de le laisser courir et de le récompenser parce qu'il fait des efforts, mais est-ce que t'as besoin de mettre un laborieux à ce niveau-là de compétition? C'est plus ça la question. Est-ce que tu devrais jouer avec un laborieux? Bref, il sort à la 65e et bizarrement, Lyon est bien meilleur derrière. Bon, Lyon déjà se réveille à partir du moment où ça revient de la pause et en début de deuxième période, mais Aouar met un super but qui relance l'OL, puisque dans le même temps, en plus, Benfica menait au score contre le Zénith. Donc là, tu te dis franchement qu'il y a un truc à faire. Et puis Leipzig n'avait pas vraiment envie de gagner ce match ou de tenir le score ou de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, en fin de match, quand ça fait 2-2, tu vois Nagelsmann qui dit à Leipzig, bah, mettez le ballon derrière, on va faire tourner. Le match nul nous garantit la première place. En gros, on va pas prendre le risque d'en prendre un troisième de Lyon qui nous ferait passer deuxième. Et je comprends son intention. Donc c'était un match assez bizarre, dans une poule assez bizarre, où franchement, il y avait quatre équipes et il y en avait une, je sais même pas, 0,5 ou une de niveau Ligue des Champions. Parce que Leipzig sur la phase de poule, clairement, est moins bon que l'Ajax, est moins bon que l'Inter, et moins bon que pas mal d'équipes qui sont sorties. Bref, voilà, un peu dans la lignée de ce qu'on a vu de l'OL en Ligue des Champions et même en Ligue 1 cette saison. Il y a des joueurs, il y a des joueurs qui font des efforts, il y a des joueurs qui clairement sont dans une intention positive et qui même parfois n'arrivent pas techniquement à réaliser ce qu'ils veulent faire, comme Depay. Et puis collectivement, on ne sait pas trop où ils veulent en venir, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. On comprend pas trop les statuts des joueurs, pourquoi il y en a un qui joue, puis qui joue plus, puis qui revient, puis qui joue plus du tout. C'est pression de revivre un peu la même saison que de l'OL à chaque fois, sauf qu'en plus, cette saison, il n'y a même pas les gros matchs réussis.
Ouais, bah justement, c'est là-dessus que j'allais te lancer après avoir fait une mini digression. Ce que tu me disais sur Touzard, ça m'appelle à la fois ce que j'ai dit à l'époque, que je pense toujours, mais sur le fait que Matuidi, on le voit avoir une allure assez bizarre, mais le fait qu'il soit pas toujours bien positionné fait qu'on l'imagine faire plus de kilomètres qu'il n'en fait. Alors, il n'y a pas de souci, il court, mais il y a des joueurs qui ont un plus gros volume de jeu que lui, mais simplement, ils le font avec une allure qui a l'air un peu moins laborieuse, du coup, tu fais un petit peu moins attention. Et deuxièmement, ça me rappelait aussi une phrase qu'avait dite Veretout dans une interview à France Foot il y a quelques semaines. J'espère la retranscrire à peu près bien, mais en gros, on lui disait qu'il avait le plus impressionné. Il disait que c'était Nainggolan. En tout cas, il disait que Nainggolan l'avait impressionné, qu'il avait l'impression que le mec était absolument partout quand il avait joué contre lui et qu'il avait vu les stats en fin de match et que Nainggolan avait couru 2 km de moins. Simplement, bon, Veretout, il trottinait pour se démarquer, etc. Il essayait de courir à droite à gauche, alors que Nainggolan faisait que des sprints à haute intensité dans les bonnes zones et que du coup, il n'y avait finalement pas de course perdue, quoi. Et que parfois, ça sert à rien de courir 12 bornes, il faut simplement bien, bien courir, et ça, c'est peut-être pas forcément quelque chose que Touzard fait actuellement. Pour conclure vite fait sur Lyon, alors j'imagine que si je te demande comment est-ce que Lyon s'est qualifié, tu vas me dire par hasard et par faiblesse des adversaires, du coup, ça n'apportera pas grand-chose. Est-ce que tu vois, alors même sans parler des huitièmes de finale, parce que dans tous les cas, même si Lyon passait par miracle en quart, je ne suis pas persuadé que les supporters, quiconque croit à un parcours qui irait au-delà des quarts, donc c'est presque plus pour le championnat que ça importe. Qu'est-ce que la Ligue des Champions peut amener à ce groupe par la suite, cette qualification? Et qu'est-ce que tu as vu sur le terrain sur lequel il y aurait matière à bâtir? Sachant que ça tourne tellement que je sais même pas si en fait Rudy Garcia veut bâtir ou s'il fait un peu des coups, quoi. C'est un peu comme une série où les épisodes seraient totalement indépendants les uns des autres et où tu n'aurais pas vraiment de trame narrative.
Oui, c'est un peu la série des années 2000 où il n'y avait pas de fil rouge et puis on regardait voilà, c'était ça. On ne sait pas trop si un jour le mec allait mourir, si un jour il allait avoir un sujet plus important qu'un autre. Non, non, d'épisode en épisode, c'est vrai que tu as un peu raison là-dessus. Je vois pas trop enfin, c'est très bien qu'il soit là en 8e, ça va rapporter financièrement, ça fait des points UEFA pour la France, c'est bien pour Lyon qui retourne en 8e pour la deuxième saison de suite, on ne sait trop comment. Mais peut-être qu'avec un tirage heureux, et je sais même pas qui pourrait tirer comme premier poule qui serait abordable, Parce qu'ils peuvent jouer qui? Bayern, Manchester, Barça, Liverpool, Juve, Valence. Peut-être que si tu tombes sur Valence, qui, tu peux avoir un truc. Mais les six autres, y a un écart immense entre les joueurs et entre surtout les plans collectifs des équipes. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent aller faire en huitième. À part aller prendre une vague ou des vagues. Parce qu'en plus, Rudi Garcia a montré que même avec Rome, qui à l'époque avait un bien meilleur effectif que ce qu'il a aujourd'hui à l'OL, il prenait des raclées dès qu'il jouait contre une grosse équipe. Donc bon, c'est très bien, ça va être en huitième, mais je sais pas pourquoi y faire. C'est vraiment, je comprends. C'est-à-dire que j'ai du mal, en fait, je sais pas comment ils vont faire pour arriver en huitième et présenter quelque chose de cohérent pour le niveau de compétition en question.
Au moins ils y seront, c'est pas le cas de Lille qui ne sera même pas en Ligue Europa. Alors c'est peut-être mieux. Ce qui est drôle, c'est que j'ai pas l'impression que sur le fond, Lille était bien inférieur à Lyon.
Alors, je
C'était
pense que
peut-être.
c'était même meilleur, ouais.
En tout cas, c'était plus cohérent. Alors il y a eu un changement de système que maintenant Galtier regrette, qui a été fait sur 3 matchs, si je dis pas de bêtises. L'aller, le retour face à Valence en Ligue des Champions, ainsi que match de championnat face à Bordeaux. Où l'aller contre Valence, c'est pas forcément payé, mais tu reviens partout, alors que bon, tu dois gagner le match assez largement, tu reviens partout dans les arrêts de jeu. Bordeaux, tu gagnes parce que tu les presses très bien, et Bordeaux, dès que tu les presses, tu gagnes le match. Et le retour contre Valence, par contre, t'explose totalement. La grosse différence, au-delà de la qualité des adversaires, qui quand même était supérieure dans le groupe de Lille, c'est vraiment que Lyon a quand même réussi à marquer des buts sur des demi-occasions, sur des cadeaux de l'adversaire ou autre. Non seulement les adversaires de Lille n'ont pas forcément fait de cadeaux, ce qui voulait dire que les buts, tu devais aller les mettre tout seul, et que même en construisant bien tes actions, ça ne suffisait pas forcément pour marquer. Mais en plus, tu avais un gros manque de réalisme. Alors le réalisme offensif, mais aussi défensif, c'est-à-dire que Maignan n'est pas vraiment coupable sur un seul but, peut-être le premier pris à l'Ajax. Où il ne se parle pas avec Gabriel, lui il dit à Gabriel d'y aller, Gabriel comprend laisse. Alors c'est vraiment deux termes totalement opposés. Je ne sais pas si en français, bon, Gabriel comprend le français, le parle un petit peu, je ne sais pas ce qu'il a foutu pour pas comprendre. Mais sinon, globalement, Maignan n'est pas forcément coupable sur les buts. Simplement, il fait aucun gros arrêt où tu te dis, ah, en gros, il prend les buts qu'il doit prendre, mais il te sauve rien de particulier. Et le problème, c'est que les adversaires, dès qu'ils avaient une grosse situation, ils allaient marquer, alors que toi, à l'inverse, il fallait vraiment enfoncer, enfoncer, enfoncer le clou pour réussir à tromper l'adversaire. Alors,
Bah tu vois, je peux te sortir les expected goals match par match pour Lille.
vas-y. Hein.
Alors, Ajax-Lille, ça fait 1,7 contre 1,5. Et tu perds 3-0, ce qui est quand même un peu dur. Lille-Chelsea, 0,6, 1,2. Tu perds 1-2, ça c'est un peu plus logique. Valence-Lille, donc le match à Valence, tu perds 4-1, mais ça fait 1,4, 1,3. Bon, il y a un penalty en plus et un CSC en plus pour Valence qui fausse un peu la donne. Lille-Ajax, 1,8 contre 1,4, tu perds 2-0, alors que tu gagnes aux expected goals et que tu as deux énormes occasions dans la surface. La Chelsea-Lille, pour le coup, tu te fais vraiment en 2 minutes 2,8 à 0,3. Et le
Bon, là, c'est.
match à Lille-Valence, j'ai pas les expected goals parce qu'ils n'ont pas été publiés par Michael Callet de Stade Bombe, mais il y a 27 tirs à 6 pour Lille. C'est le match où Valence finit à 10 contre 11.
Oui, c'est ça. Et je n'ai encore fait que quelques minutes à 10 contre 11. Mais c'est
Ouais.
vraiment Lille qui était largement au-dessus. Sans que le dernier, bon, Lille a mis l'équipe réserve. Enfin, l'équipe réserve. A mis plutôt les remplaçants. Et genre Thiago Maia qui avait joué 20 minutes sur toute la saison. Qui, la moitié du temps, est hors du groupe. Qui n'était pas destiné à rester, mais qui refusait l'offre du Genoa cet été. Il avait été aligné plus ou moins ailier gauche, quoi. Donc,
C'est-à-dire qu'en fait, à part les deux matchs contre Chelsea, bon, à part, ça peut paraître dur, mais à part contre la plus grosse équipe du groupe en termes de moyens financiers, les quatre autres matchs, tu fais jeu égal, mais sur le score, tu te fais taper, notamment parce que les talents individuels sont plus en phase que chez toi. Donc, c'est un peu cruel pour Lille, qui, je pense, était beaucoup plus cohérent collectivement et compétent que ce qu'a montré l'OL.
Ouais, et ça me fait penser, donc du coup j'ai suivi tous les matchs à domicile et suis à l'Ajax à l'extérieur depuis le stade, donc avec les interviews d'après-match, etc. Tu peux aussi avoir un petit peu le discours des joueurs, le ressenti général, ce que dit Gérard Lopez, machin. Et y a toujours, alors de moins en moins au fur et à mesure des semaines, mais toujours le terme expérience qui est revenu. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, je trouve que c'est un peu mis comme une carte de joker quand tu veux pas forcément répondre au vrai problème. Après, je comprends que ça soit plus facile de dire que tu manques d'expérience plutôt que tes joueurs offensifs ont des pieds carrés au moment de finir, ce qui est un peu le cas de Ikoné, Bamba. Ikoné, historiquement, parce qu'il n'a jamais été bon finisseur, Bamba cette saison, ou
Bah,
c'est un énorme
c'est-à-dire que
problème dans le dernier jeu.
si tu fais la même phase de poule avec Pépé, tu prends combien de points? Avec le Pépé de l'an dernier, hein, il faut préciser.
Le truc, c'est que le PP de l'an dernier t'ouvre tout en fait. Parce que le PP de l'an dernier, non seulement il marque, mais en plus il fait des passes qui sont des passes décisives, parce que la passe est vraiment décisive, t'as plus qu'à la pousser dedans. Mais en plus, le PP de l'an dernier force l'arrière gauche à défendre. Donc c'est-à-dire que ton arrière droit, Celik, qui fait une saison très mauvaise, je pense qu'une raison pour laquelle sa saison est très mauvaise, c'est que en fait, là, l'ailier droit, peu importe qui il soit, que ce soit Renato Sanchez, Yazice ou Ikoné, généralement du côté lillois, ne force pas le latéral à défendre. Du coup, Tagliafico, par exemple, face à Lille, il pouvait jouer ailier sans problème. Il n'avait pas peur de laisser des espaces dans son dos parce que la menace en transition n'était pas grande. Alors que Pepe, force, en gros, c'était un quitou, soit tu montais, mais du coup, Pepe allait te prendre dans ton dos et tu n'allais jamais le revoir. Soit tu montais pas et du coup le latéral lillois était assez tranquille, il n'avait pas à défendre. Je pense clairement, je suis pas sûr que tu passes, mais au moins tu joues vraiment jusqu'à la dernière journée. Et avec Pépé, je suis pas sûr que tu sois moins bon que Valence, qui pour le coup est quand même assez bien payé de cette phase de poule, de terminer en tête. Donc c'est assez dur pour Lille. Juste pour revenir vite fait sur ce que je disais sur l'expérience. Alors Galtier, quand je lui ai demandé, parce que du coup en conf de presse, je me suis dit, bah, enfin expérience, expérience, mais concrètement, en quoi est-ce qu'on voit? Pourquoi est-ce que, Christophe, après le match, tu nous dis là on a manqué d'expérience, et pourquoi dans d'autres matchs tu nous dis là on n'a pas mis assez d'envie ou là on n'a pas été bon quoi? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à distinguer le manque d'expérience du manque de talent? Et lui, son explication, c'était bah, en fait l'expérience, c'est d'être capable de subir sans prendre de but en gros. C'est la gestion temps fort, temps faible. Ce qui se voit en partie sur. Alors ça peut s'entendre, hein, je sais pas, je n'ai pas fait de grandes recherches savoir si c'était vraiment ça le manque d'expérience ou non, mais c'est vrai que l'intensité Ligue des Champions mise par Chelsea, mise par l'Ajax, elle est quand même supérieure à ce que mettent 95% des équipes du championnat. Et c'est vrai que là-dessus, Lille a pas bien su gérer les temps faibles, c'est surtout ça. Alors parfois ça prenait des buts en toute sortie de temps faible, ce qui est un peu rigolo. C'est-à-dire que tu subis pendant 10 minutes, s'il y a une ou deux minutes, tu émerges, c'est là que tu prends le but. N'empêche que sur quasiment toutes les entames de match, il y avait 10-15 minutes très compliquées. Et ça, malgré tout, c'est assez embêtant pour. Alors l'an dernier, Lille arrivait à subir, mais subir plus ou moins en bloc médian et lancer des contres. Là, c'était un petit peu plus difficile parce que ton bloc médian est moins performant et tes contres sont menés par des gens qui sont moins doués. Mais c'est vrai que, alors au-delà de Pépé, j'aurais même aimé voir le Renato Sanchez, là, des trois derniers matchs, qui est vraiment très bon. Ce que tu aurais pu faire avec ce joueur-là. Même si la grosse faiblesse, comme je disais, c'est à la fois le réalisme dans les deux surfaces et puis tes latéraux qui sont dramatiques, mais ça, c'est chaque semaine, malheureusement. Celik à droite, Bradaric ou Reinildo à gauche, c'est extrêmement faible cette saison. Et là-dessus, t'as pas pu avoir de joueurs offensifs qui venaient à la rescousse pour un peu te masquer leurs limites. Après, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça reste un bilan. Même si le groupe est difficile, c'est quand même moche de terminer avec un point et quatre buts marqués, je crois. Deux buts d'Osimhen, un de Ikoné et un de Loïc Rémy. Alors qu'il y a des équipes qui étaient aussi dans des groupes difficiles, genre le Dynamo qui termine avec 5 points. Tu te
Ouais.
dis, bon, Lokomotiv prend quand même 3 points dans un groupe où il y a le Bayern, l'Atlético, la Juve. Genk prend quand même son point. Le Slavia prend 2 points en envoyant vraiment beaucoup de jeux. Je crois que tu es la seule équipe à un point. Là, je regarde vite fait, à part
Ouais.
Genk. Genk aussi a un point en ayant pris 20 buts, donc là c'est un petit peu
Ouais, parce que quand tu
compliqué.
vois qu'un Galatasaray, ça prend 2 points. Après, tu vois, Lille est par exemple meilleur que le Zénith, meilleur que Benfica, je pense. Meilleur que Genk, meilleur que Galatasaray, meilleur que l'Étoile Rouge. Je pense que l'Olympiakos, il y a bagarre et je pense que limite que c'est meilleur, tu vois, de ce qu'on a vu des matchs. Donc c'est un peu. Après, c'est le malheur du tirage au sort. Là, t'as quand même trois équipes. En fait, la vraie, je trouve, le facteur risque de cette poule, c'est Valence. Qu'on
Oui,
pense.
en plus Valence qui était à moitié en crise avec changement
Voilà, c'est ça.
d'entraîneur, révèle des supporters.
Et qui fait premier de la poule de manière assez miraculeuse, hein, grâce au match contre Chelsea en particulier. Mais Valence, quand tu vois comment la saison démarre et le fait que Marcelino soit viré et que Célades arrive. Tu te dis, ah bah, c'est contre cette équipe que tu vas pouvoir prendre des points et peut-être à un moment emmerder Chelsea et l'Ajax. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé et Valence sort même l'Ajax. Donc c'est une poule qui s'est vite retournée contre Lille alors que je pense que tu les mets dans la poule de Lyon à la place de Lyon. Je pense que ça peut se qualifier par exemple. C'est ça qui est dommageable, mais ils ont été pas du tout ridicules dans la prestation collective.
Ouais, malheureusement, t'as pas su gagner moche. Et le seul truc qui m'embête pour terminer, c'est que j'ai pas l'impression que t'es pris en expérience. En gros, que t'es suffisamment appris pour
Ni
l'année prochaine ne
d'ailleurs
pas faire les mêmes erreurs.
ni d'ailleurs donner de la valeur à tes joueurs. Je pense qu'à part Soumaré,
Osimhen, mais
ouais,
qu'on avait déjà sans ça.
mais est-ce qu'il y avait besoin là, ouais, est-ce qu'il y avait besoin de la Ligue des Champions pour donner de la valeur à ces joueurs? Je suis pas sûr.
Oui, c'est intéressant de voir qu'il peut faire la même chose, mais effectivement, ça, c'était pas forcément le point décisif. Mais tu vois, il y a des équipes, tu dis, mince, j'ai pas bien abordé le truc. Hein. Là, franchement, je suis pas persuadé que t'aies mal abordé le truc, c'est juste que t'as pas eu de réussite, mais parce que t'avais pas suffisamment de bons joueurs dans les deux surfaces et que t'as pas été suffisamment réaliste. Mais je pense que tu refais le truc 10 fois. Si à chaque fois t'abordes les matchs comme ça sans être capable de gagner les matchs abordables ou au moins de prendre nul, bah tu vas les perdre à chaque fois. Donc je pense que tu rejoues la même compétition l'année prochaine. Ça sera pas, ah là on n'a pas bien abordé les 10 premières minutes, ça ira mieux. Tu aborderas peut-être les 10 premières minutes de manière meilleure, mais ça t'empêchera pas, comme face à Valence, au retour, de te prendre une dégringolée de but à partir de la 80e, si jamais tu as laissé passer ton temps fort et que tu termines cramé. Donc malheureusement là-dessus, c'est un petit peu dommageable. Mais bon, on fera si Lille a l'occasion de retourner l'année prochaine comme Lyon. Pour l'instant, c'est pas fait du tout. Faudra vraiment une bonne deuxième partie de saison. Voilà pour les clubs français. On va passer au point chaud de ce milieu de semaine. Notamment un match qu'on a vu tous les deux, c'est Salzbourg qui
Ah.
affrontait Liverpool. Match doublement intéressant, à la fois parce que Salzbourg, en cas de victoire. Alors, selon les résultats de Naples, soit victoire sèche, soit victoire avec 2 buts d'écart, ou 5-4, si je ne dis pas de bêtises. Mais dans tous les cas, Salzbourg avait les cartes en main pour sortir Liverpool. Donc là-dessus, c'était un match à enjeu. Et puis aussi parce que ce sont deux équipes qui ont une philosophie pas si éloignée que ça au niveau de l'intensité, de l'attitude sans ballon. Mais Salzbourg est vraiment extrême et vraiment très intéressant parce que justement, il y a une idée de jeu très claire. Et contrairement à d'autres équipes où tu te dis, notamment Lyon, voilà pour les citer, tu sais pas trop ce qui veut être fait, donc du coup, tu sais pas trop ce qui peut être corrigé. Là, Salzbourg, tu sais exactement ce qu'ils veulent faire, donc du coup, tu vois tout de suite si le plan est bien appliqué ou pas, et si le plan est suffisamment bon, et ce qu'il faut améliorer pour la suite. Et là, alors, il y a défaite de Salzbourg de 0, élimination de Salzbourg. N'empêche que ce que tu disais sur Twitter après la première période, c'est que c'était la plus belle mi-temps de football de la saison pour toi. Alors, je sais pas si c'était un truc à chaud ou si tu gardes cette opinion-là, mais en tout
Non,
cas,
non, je la
le
garde.
match était très sympa, quoi.
Ouais, il était super sympa, il était ouvert, mais en même temps, c'était deux équipes qui savaient ce qu'elles voulaient faire, qui savaient comment presser, qui savaient comment ressortir le ballon, qui avaient du jeu à l'intérieur vraiment très bon. Donc c'était top de voir deux équipes modernes. Je pense que Salzbourg a été encore plus impressionnant que Liverpool en première période. Après, ils ont eu vraiment du mal en deuxième, pour plein de raisons, et notamment le fait que le losange, quand t'arrives pas à presser haut, ça devient très vite dangereux. C'est ce qu'avait un peu vécu Arsenal avec Emery quand ils sont allés à Anfield, où ça peut être intéressant parce que quand tu vas récupérer le ballon, tu vas pouvoir contre-attaquer par l'axe, pardon, parce que tu as du monde dans l'axe. Mais quand tu es acculé sur ton but, sur ta surface, et que tu essayes de défendre d'une largeur à l'autre, enfin d'un côté à l'autre, là ça devient quand même très compliqué. Et c'est ce qu'ils ont vécu en deuxième période, et ils prennent pas mal de situations et d'occasions comme ça. D'ailleurs, je pense que les expected goals sont un peu trompeurs sur ce match. Parce que Liverpool finit à 3,70, Salzbourg à 0,60. Bon, c'est un peu dur pour la première mi-temps de Salzbourg, mais il y a eu tellement de grosses occasions pour Liverpool en deuxième, et même en fin de première, que finalement tu te rends compte du prix que tu payes quand tu vas presser si haut une équipe avec des attaquants de ce niveau et de cette vitesse-là. Mais c'était vraiment un des meilleurs matchs de la saison, peut-être sans doute le meilleur sur la première période, sur la deuxième un peu moins, juste pour contextualiser un peu les enjeux avant la rencontre. Avec une victoire du Napoli, il suffisait que Salzbourg batte Liverpool pour passer, puisqu'il y avait eu 4-3 à l'aller. Et comme Salzbourg, du coup, avait marqué 3 buts à l'extérieur, fallait gagner 1-0, 2-1, 3-1, peu importe. C'était une défaite 5-4 qui, par contre, pouvait te sortir. Parce que du coup, Liverpool avait marqué 4 buts à l'extérieur, et toi 5, et les deux équipes auraient été à 10 points, et du coup, toi, tu aurais perdu sur la règle des buts à l'extérieur, pardon, parce que tu aurais marqué 3 buts à Anfield, et Liverpool aurait marqué 4 buts à Salzbourg. Donc voilà, c'était un peu. Il fallait une victoire du Salzbourg et une victoire du Napoli pour sortir Liverpool, ça n'est pas arrivé. Mais c'était vraiment dans l'intensité, dans les principes de jeu, dans les circuits du losange de Salzbourg, où on a vu un peu les mêmes circuits de passe qu'on voyait à Salzbourg avant avec Rose et Maric. Des passes diagonales, des latéraux depuis l'intérieur, des combinaisons à partir de là, un Minamino encore très bon, un Wang encore pas mal, des joueurs sur toutes les lignes intéressants. Puis finalement, la déception de ce match, on pourra en reparler parce qu'il y a des rumeurs de transfert aussi qui circulent. C'est un peu Haaland qui se déplace bien, qui se rend dispo bien, qui a embêté Lovren, mais qui, je trouve, dans l'exécution technique, était un peu en dessous de ses partenaires, sur ce match-là en tout cas. Mais c'était vraiment dans l'ensemble un très bon match, et j'ai eu chaud pour Liverpool parce que sur la première période, il y a des situations où Alisson doit vraiment se démultiplier pour sauver Liverpool.
Ouais, et puis au-delà des arrêts d'Alisson, je trouve qu'il y avait, et pour moi, c'est aussi ce qui explique que les XG soient assez faibles, c'est qu'il y avait un problème dans la dernière passe. Parfois, une tendance, soit, alors je ne sais pas si c'est lié au fait de faire beaucoup d'efforts, mais un manque de lucidité dans la dernière passe, alors que finalement toute la construction est parfaite avec parfois des
Ah, et puis
situations où ça repartait depuis le gardien et la dernière passe est un peu trop forte,
parce
un
qu'ils
peu
font
mal
tout à une telle
ajustée.
vitesse aussi que je pense que c'est difficile de sortir de cette vitesse pour éviter la précipitation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arriver à ralentir le temps et ils sont tellement tout le temps à 100 à l'heure que c'est difficile quand tu arrives dans les zones décisives de faire le bon choix, je trouve.
Et puis aussi, mine de rien, dans le dernier tiers de terrain adverse, tu fais un peu plus appel à la créativité que sur les premières relances où tu peux un peu répéter des choses de manière mécanique. Et du coup, presque peu importe la manière dont l'adversaire te presse, si tu sais comment libérer ton latéral et comment dédoubler avec l'un des milieux excentrés, tu vas réussir globalement à former des triangles de manière assez simple. Quand tu arrives dans le dernier tiers de terrain adverse, bah, il faut que ta passe elle soit pile dans le bon tempo par rapport à l'appel de l'attaquant et dans le dos dans le dos du défenseur, etc. Mais c'est des choses qui sont un peu moins faciles à répéter, hein, parce que tu es beaucoup moins souvent dans le dernier tiers de terrain adverse que dans le tien, même si en championnat, Salzbourg attaque quand même assez souvent. Donc il y a pas mal de répétitions sur le fait d'attaquer. N'empêche que tu peux être 25 fois sur des relances courtes du gardien et beaucoup moins souvent au moment de faire la dernière passe à l'entrée de la surface. Et puis ouais, allant de déception parce que il se déplace plutôt bien sur l'idée de la course en elle-même. Mais je trouve que déjà sur les appuis, sur l'équilibre, c'était pas toujours ça. Des fois, on a l'impression qu'il avait plus ou moins tombé, assez
Je
bizarre, qu'il maîtrisait pas totalement son gabarit.
pense qu'il souffre de son poids quand même. Enfin mais pas de poids parce qu'il est gros, hein, mais parce qu'il a un corps.
Qu'il n'a
Alors
pas
que
encore à
Morata à côté, c'est
dompter.
un bébé, je pense.
Ouais, là, il a annoncé jouer à 1m91, 87 kg. Je lisais un papier de Yoann Crochet sur Eurosport qui disait qu'il avait une poussée de croissance assez tardive. J'ai repris, je crois que c'est 15-16 cm à l'âge de 16 ans, que du coup il avait quasiment perdu 6 mois parce que Molde ne voulait pas le faire jouer parce qu'il y avait trop de risques de blessures, parce qu'il fallait qu'il puisse apprivoiser ce corps qui était en pleine mutation avec les fragilités que ça implique. Mais là, c'est vrai que des fois, vraiment une action moi, qui m'a frappé, c'est où il est lancé en profondeur, il peut y aller tout seul. Je ne dis pas que ça va forcément fonctionner, mais en tout cas, n'importe quel attaquant prend la balle, la pousse, et tu veux tendre dans la surface et tu percutes. Et lui joue la passe, je crois que je sais plus si c'est pour Minamino ou pour Wang, je crois que c'est pour Wang. Mais en tout cas, il joue la passe en un temps, il cherche même pas à la jouer. Et ça m'a vraiment rappelé, moi, quand je suis au five, en gros, je suis pas en confiance. Et même si la vraie bonne solution, ça serait d'aller au but, sinon, pour moi, il vaut mieux tenter une passe à un coéquipier moins bien placé, mais plus talentueux intrinsèquement, que d'y aller tout seul. Sauf que c'est pas du tout l'attitude que devrait avoir un buteur, encore plus un buteur jeune, assez sûr de lui, en pleine confiance actuellement. Et pour moi, il fait ce choix-là parce qu'il se sent pas bien équilibré, il n'est pas forcément à l'aise à ce moment-là. Et du coup, il fait la passe. Et c'est un peu le résumé que j'avais sur les attitudes. Hormis Minamino, qui généralement faisait le bon choix. Alors, il y a eu une ou deux passes mal dosées, mais sur ses déplacements, c'était vraiment intéressant.
Joueur incroyable, Minamino, hein, faut en parler un peu parce qu'on en avait parlé un tout petit peu lors de l'aller. Mais je lui trouve pas de défaut. C'est vrai qu'il est ultra mobile, il court tout le temps pour défendre, il court tout le temps pour se déplacer, il fait les bons choix même dans la densité, il arrive à se retourner, il arrive à se placer toujours de trois quarts pour prendre les infos et avoir plusieurs possibilités. Il est très, très sûr techniquement. Ça a l'air d'être un mec à qui tu peux demander n'importe quoi sur le terrain, il va le faire parce que dans ce losange là, derrière les deux attaquants, il devait quand même basculer d'un côté à l'autre du terrain sur la largeur pour bosser défensivement et aller presser le porteur. Je sais pas si toi tu l'as vu en championnat, mais moi sur les deux matchs contre Liverpool, et d'ailleurs les autres supporters de Liverpool ont un peu ressenti la même chose, c'est un joueur, tu sais pas trop ce qu'il fait là-bas.
Je l'avais vu en championnat, mais l'an dernier, où c'était un peu plus irrégulier. Alors, je crois qu'il avait joué parfois un petit peu plus haut en deuxième attaquant. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, là, sur ce que tu vois, en fait, tu te dis, quand tu arrives à ressortir du lot, notamment dans les déplacements, dans une équipe qui est aussi propre, et où, à part peut-être Moueppou, qui de temps en temps, j'ai trouvé un petit peu moins bien. Mais Junuzovic, homme d'expérience, tu sentais qu'il maîtrisait en tant que milieu reculé numéro 6. Szoboszlai, qui est vraiment promis un gros avenir, je crois qu'il vient d'avoir 19 ans. Donc lui, pareil, 2000, qui sait déjà faire beaucoup de choses en box-to-box, à la fois percuter, faire vivre le jeu, etc. Mais quand tu arrives à sortir du lot dans une équipe comme ça, tu te dis, a priori, il fera pas tâche s'il va dans un top-top club. Le truc, c'est qu'il a 24 ans, ce qui à la fois est jeune à l'échelle d'un footballeur, mais dans le foot de maintenant, Tu te dis, en gros, à son poste, avec ses caractéristiques de jeu, il a 3-4 ans où vraiment tu l'attends au top niveau, parce qu'à
Ouais.
28 ans, les clubs vont peut-être anticiper une espèce de déclin physique
Après,
dont ils ne sauront pas forcément s'il arrivera à le compenser.
c'est à cet âge-là que Firmino arrive à Liverpool à 24 ans. Donc, c'est quand même un âge intéressant. C'est un 95. Donc tu le prends, tu lui mets un contrat de 5 ans, tu sais que ça va être 5 années où il sera au top. Donc, ça reste intéressant, je trouve.
Mais c'est vrai que bon, Dele Alli est très bon en ce moment. Donc voilà, mais tu le mets à la place de Dele Alli, je suis pas sûr que Tottenham soit un bon, par exemple. Je pense qu'il y a pas mal de clubs où il pourrait s'insérer relativement facilement. Alors il faut que son profil corresponde. Si tu le mets dans un 4-3-3, par exemple, tu seras obligé de le mettre en numéro 9 avec deux ailiers qui prennent la profondeur et qui sont
Ouais.
des attaquants excentrés.
Ou
Sinon,
tu le
faut.
mets ailier intérieur qui revient tout le temps dans l'axe et qui du coup va jouer entre les lignes. Ou là où je le vois plus, c'est. Bon, après, ce sera pas le cas parce que ce club n'a pas assez d'argent pour vraiment le faire venir. Mais dans les deux qui sont derrière l'attaquant à l'Atalanta.
Oui.
Pour moi, c'est la zone parfaite pour lui.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me disais, il y a pas mal de clubs où il serait bon. Après, le mieux, c'est s'il est au 4-2-3-1 ou autre, mais en tout cas dans un poste de numéro 10 derrière quelqu'un. Encore mieux à l'Atalanta où il y a deux joueurs devant si tu joues en 3-4-1-2. Mais c'est vrai que ça serait vraiment intéressant. En tout cas, bon, quand même sur Liverpool, est-ce que tu as vu des choses qui te rassure, parce que ce type d'opposition-là n'est pas forcément fréquent, parce que Salzbourg, honnêtement, je ne sais pas à quoi il carbure, mais il court quand même énormément. Alors, heureusement, il se fatigue à partir de là. Enfin, heureusement.
Et
Enfin, pareil,
après,
moi, je ne vais pas dire que ça me gênait, hein. J'étais très satisfait devant le match, mais si ça avait duré pendant une heure, j'aurais peut-être eu le même
non,
sentiment de malaise qu'au LAS devant Ivica Olić. Là, au bout de l'heure
mais
de jeu, ils étaient tous cramés, donc du coup, tu dis, il y a une forme
là,
de
après la
logique.
pause, c'était compliqué là. Quand ils sont revenus de la mi-temps, clairement, t'as senti qu'en fait, les 15 minutes, elles étaient beaucoup trop longues. Et du coup, je pense que ça a stoppé les organismes. Et quand ils sont revenus sur le terrain, le pressing n'était pas du tout pareil.
Ouais, donc là-dessus, voilà. Mais c'est vrai que c'est. Il y a quand même une capacité à mettre pendant 30-40 minutes une densité dans les courses, dans la répétition des efforts folle où. Enfin, en gros, la plupart des transitions de Liverpool étaient coupées à la source parce qu'il y a des joueurs qui sortaient de nulle part et qui compensaient les 10 mètres de retard en arrivant les premiers sur le ballon. Donc, ce qui est aussi une question d'envie, une question de lecture des trajectoires parce que tu peux pas courir n'importe où. Liverpool, malgré tout, a quand même réussi à affronter l'orage sans finalement concéder tant, tant d'occasions que ça.
Ouais, ça finit à 22 tirs à 11, donc il domine sur l'ensemble du match. Non, ce que je retiens, c'est que Naby Keïta enchaîne un deuxième match vraiment positif de suite. Il avait été bon contre Bournemouth, il avait marqué. Là, il est bon contre Salzbourg, il marque encore. Et ça fait plaisir parce que, en plus, contre un de ses anciens clubs, il a réussi à montrer toutes ses qualités. Contre une équipe qui a mis de l'intensité du pressing, il a réussi à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu. Il a réussi à être décisif, il a réussi à créer des occasions. Il finit homme du match là sur Rouscorde, notamment grâce à son but. Vraiment, il a été très bon. Bon, après, on peut parler de Sadio Mané qui là, continue de grimper, grimper, grimper. Il atteint un niveau en ce moment, c'est assez fou. Il est clairement supérieur aujourd'hui à Firmino et Salah, en tout cas sur les derniers mois. Il a pris une dimension considérable. Je pense qu'en fait, depuis le début de la phase éliminatoire de Ligue des Champions 2019, donc quand ça commence à parler le Bayern en 8e, c'est de très loin le meilleur joueur de Liverpool, offensivement. Et il fait de telles différences et je sais pas, il perd jamais un duel. En fait, même s'il perd le duel, il va réagir tellement vite qu'il va récupérer le ballon ensuite, et ça, c'est assez impressionnant. Donc vraiment, sur ce plan-là, Naby Keïta et Sadio Mané, ces deux-là, qui en plus s'entendent très bien et sont très potes dans la vie, si Sadio Mané continue à ce niveau-là et Naby Keïta revient dans l'équation au milieu de terrain, bah, tu vas finir par être meilleur que la saison dernière, où j'avais trouvé que Liverpool n'était pas le même. Enfin, n'avait pas le même dynamisme collectif et la même créativité qu'en 2018 lorsqu'ils vont en finale contre le Real et qu'ils perdent. Donc c'est vraiment un point positif quand tu vois qu'en plus sur le banc t'avais Oxlade ou Shaqiri qui peuvent sortir du banc ou Origi qui fait une entrée encore correcte. Donc ça c'est assez rassurant pour Liverpool qui là depuis quelques semaines est redevenu une grosse équipe.
Mané et Keïta qui se sont croisés mais qui n'ont jamais joué ensemble, je crois, du côté de Salzbourg, il me semble. Je crois qu'ils font 2012-2014 pour l'un et 2014-2016 pour l'autre. Mais ce qui prouve qu'en tout cas, au-delà de la formation, parce qu'il y avait un papier sur The Independent qui disait que le centre de formation de Liverpool au niveau architectural et contenu de comment répartir les salles, etc., s'inspirait de celui de Salzbourg qui serait le meilleur centre de formation au monde, en tout cas au niveau design, fonctionnalité, etc., où c'est mi-foot, mi-hockey sur glace. Mais au-delà de ce côté, on forme bien les joueurs assez jeunes avec une réserve qui est en D2 remplie de joueurs de 16-17 ans. Il y a aussi un talent pour attirer les mecs, on le
Oui,
sait,
c'est
mais
beaucoup de
c'est assez.
post-formation quand même, hein, ça se voit. Parce
Oui,
que
c'est ça. Oui.
dans le 11, je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs qui soient sortis vraiment du centre.
Là, comme ça, non, je crois pas. Je crois que Wolf, mais bon, qui est parti depuis à Leipzig, mais qui l'an dernier était titulaire, je crois que Wolf vient de là-bas. Mais c'est vrai que sinon, ils les prennent assez tardivement vers quoi que non, même pas. J'ai l'impression qu'ils l'ont pris à 15 ans. C'est vrai qu'ils prennent souvent à 15-16 ans avec un réseau de scouting qui est quand même quasiment inégal. En tout cas, si tu prends vraiment tout le groupe Red Bull. Les autres points chauds de cette semaine, alors qu'il y avait. Ça joue la qualification. Entre Inter et Dortmund, c'est Dortmund qui est passé. Entre l'Ajax et Valence, on a évoqué. Et Chelsea, Valence a sorti l'Ajax. Atalanta qui termine finalement devant Zagreb et le Shakhtar. Et enfin l'Atlético qui se qualifie indirectement aux dépens de Leverkusen. L'Atlético qui gagne. Et dans tous les cas, Leverkusen avait perdu. Le plus gros match, en tout cas, je crois que tu en as vu un petit bout, c'est l'Inter. Inter-Barça.
Ouais, j'ai vu un tout petit bout de la deuxième période, et puis quand Lyon a remis le 2-1, je suis repassé sur Lyon. Bon, du coup, j'ai pas vu grand-chose, mais un gros match de Lautaro qui a été très bon dos au jeu et qui continue de progresser semaine en semaine. Après, sur l'ensemble de la poule, c'est une déception pour moi de voir l'Inter sortir, et sur l'ensemble du début de saison. Alors la malédiction Conte continue en Ligue des Champions avec la Juve. Déjà, il avait connu des épisodes assez malheureux. Là, ça se prolonge avec l'Inter qui était déjà sorti l'an dernier de manière assez rocambolesque, puisque
Bah,
je crois que c'est
même histoire,
Tottenham qui les sortait au dernier moment.
indirectement. C'est rigolo, c'est qu'à chaque fois, le Barça B, entre guillemets, est impliqué. Parce que l'an dernier, il fallait qu'ils fassent mieux que Tottenham, et eux ne battent pas le PSV. Et le Barça, qui avait pareil, déjà qualifié, avait mis une équipe bis, avait été repris au dernier moment par Tottenham. Donc sans ce but encaissé par le Barça, l'Inter serait passé. Mais n'empêche que l'Inter, en cas de victoire face au PSV, qui était une bonne équipe l'an dernier, mais qui était prenable, avec le nul de l'autre côté, l'Inter serait passé. Et là, de nouveau, l'Inter, en cas de victoire, serait qualifié face à une équipe du Barça très remaniée, peu importe ce que faisait Dortmund face au Slavia. Et Dortmund a un petit peu souffert, mais a fini par gagner finalement au score sans trop trop de soucis. Sauf que l'Inter ne fait pas le job et perd 2-1 en fin de match face au Barça.
Cette année, ils ont moins d'excuses parce qu'ils contrôlaient leur destin et qu'ils c'est eux qui profitaient du fait que le Barça mettait la baie en fin de poule.
Oui, c'est ça, ouais.
Donc Dortmund était plus pénalisé dans cette situation. Ce qui est dommage, c'est quand même de voir l'Inter sortir, parce que je pense que sur la prestation collective depuis début août, ils sont meilleurs que Dortmund. Je pense que c'est une équipe qui aurait pu aller plus loin et qui me semblait avoir plus de certitude et avoir une meilleure dynamique avec un nouveau coach qui amène de la fraîcheur, mais qui amène de la rigueur. Alors que Favre, t'as l'impression que la dynamique est un peu inverse. Donc c'est dommage. Après, c'est vrai que sur la qualité des joueurs, finalement, Dortmund a peut-être plus d'armes offensives pour aller loin dans cette compète. C'est ça qui est dommage pour l'Inter, c'est que une fois que tu sors de Lautaro ou Lukaku, vu que Sanchez s'est blessé, bah, tu passes vite à un niveau de joueur beaucoup plus bas. Et là, ça a posé problème notamment, mais en tout cas, c'est Lautaro qui était déjà annoncé au Barça avec le match qu'il a fait. Ça risque d'être un peu plus la rumeur dans les mois à venir. En sachant qu'ils ont déjà Griezmann, Suarez, Messi, il va falloir faire de la place un moment et ça risque de se compliquer encore plus.
Et qu'est-ce que tu as pensé? Alors, je ne sais pas si t'es. Moi, j'ai revu le match a posteriori, là, cet après-midi. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était un match assez particulier parce que finalement, c'était très, très scolaire, finalement, dans l'application. C'est-à-dire qu'en gros, c'était sortie de balle sous pression d'un côté ou de l'autre. La seule différence étant que quand l'Inter sortait du pressing barcelonais, c'était pour attaquer, pour profiter du décalage créé par le fait que Barcelone évolue assez haut et que du coup il y a des espaces qui allaient s'ouvrir, alors que du côté barcelonais, c'était on casse le pressing, mais pour pouvoir aller s'installer dans le camp adverse et construire et garder la balle. Je crois que la possession, ça doit être quelque chose comme 63 ou 60-40, enfin, en tout cas ça a varié sur toute la. Je crois, ouais, je vois 63-37, donc c'est à peu près conforme à ce que j'avais en tête, mais disons que le Barça était beaucoup plus à l'aise pour conserver dans le camp adverse, chose que ne faisait pas l'Inter, mais il y a eu quasiment aucun duel au milieu de terrain. Il y a eu assez peu de transitions. C'était simplement, on fait des ateliers de sortie de balle sous pression des deux côtés, où c'était plutôt bien fait. Et ce qui est rigolo en plus là-dedans, c'est que c'est tellement assumé du côté barcelonais que Barcelone était à 3 derrière sur ce match-là. C'est une espèce de 3-5-2 si, avec Pérez et Griezmann devant et derrière c'était l'anglais Umtiti Todibo. Todibo vraiment très intéressant qui est notamment à l'origine du premier but où là c'est une sortie de balle sous pression où le Barça attaque quand même relativement vite, c'est pas une attaque rapide mais en une dizaine de secondes ça termine par un but. Donc là en plus tu avais vraiment cette réflexion-là de savoir bon, il y a Martinez et Lukaku qui vont venir chercher assez haut, on n'est pas sûr que la deuxième ligne derrière suive de très près. Bon, on met trois défenseurs pour avoir cette supériorité numérique 3 plus 2 pour pouvoir construire proprement. Alors même si voilà, ça avait Aleñá, bon, Aleñá qui fait un bon match, mais Aleñá, Ouagué, bon, Junior qui est pas très bon, mais voilà, Carles Pérez, des joueurs qui ont pas tous énormément de temps de jeu et quand ils en ont, type Firpo, ils sont pas toujours très bons. Mais c'était un match assez rigolo là-dessus parce que tu voyais ce que voulaient faire les entraîneurs, ce que voulaient faire les joueurs, que ça avait été répété. Mais je me demande, autant le Barça était capable de faire autre chose. Puisque une fois, comme je disais, que le pressing était cassé, ça pouvait faire de la possession et construire de diverses manières avec un Griezmann qui a beaucoup dézoné et qui était dans un rôle un peu à la Messi de meneur total sur le terrain, qui pouvait un peu rappeler ce qu'il faisait à l'Atlético, mais avec beaucoup plus de possession. Mais voilà, vraiment le relais que tu trouvais sur la plupart des offensives. Autant l'Inter n'était pas forcément capable de s'installer dans le camp adverse. Et j'ai vraiment l'impression que l'Inter, bah, si c'était pas récupération au pressing ou alors sortie de balle, comme on les a vus sur certains matchs, truc parfait, très propre, où ça fait tac, 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 en 10 secondes, tu mobilises tous les joueurs sur le terrain, tu as créé le décalage et tu vas marquer. Mais finalement, est-ce qu'il y avait autre chose, et est-ce que depuis le début de saison, il y a autre chose dans le jeu de l'Inter? Je me pose la question, ça peut suffire pour gagner pas mal de matchs et pour être très intéressant, notamment en championnat, mais est-ce qu'il ne faut pas être capable de tenir un peu mieux en bloc médian, d'avoir un petit peu plus de créativité avec des ailiers? Voilà, c'est ça qui m'a interrogé sur ce match qui était finalement assez facile à lire et que tu pouvais regarder en x2, en x3, en comprenant à peu près tout ce qui se passait sur le terrain.
Ouais, mais je te rejoins, mais c'est déjà la limite qu'on avait notée de la part de l'Inter sur certains matchs plus tôt dans la saison. C'est-à-dire que Conte a réussi, parce que c'est beaucoup de par cœur et beaucoup de circuits, à vraiment donner un style, ou en tout cas à donner des cheminements et des moyens d'avancer sur le terrain. Après, c'est vrai qu'il y a pas encore beaucoup de variété dans le jeu de l'Inter, mais c'est une équipe qui partait tellement d'une décennie 2010-2019 compliquée, où il y avait eu des successions de coachs, des successions de joueurs, des effectifs un peu montés n'importe comment. Que là, le fait de revenir à un truc très scolaire mais très clair a fait du bien au départ. Maintenant, sa mission dans les mois suivants, la sienne et celle des dirigeants, ça va être d'apporter plus de variété à travers l'entraînement et à travers d'autres profils de joueurs. Parce que là, on peut parler du style de jeu et des joueurs devant et des joueurs derrière, mais la ligne de 5, là, c'est Biragi, Valero, Brozovic, Vecino, D'Ambrosio. En termes de créativité,
Bah, c'est vrai qu'en plus,
Brozovic.
là, tu as des blessures de Barella et de Sensi,
Bah
qui
ouais,
sont
c'est
presque
ça,
tes
ouais.
deux meilleurs milieux, en tout cas les deux meilleurs box-to-box, parce que là, j'aime bien Valero.
Mais Valero, il a
Mais.
beaucoup de courses, il est vraiment.
Ah, bah déjà, au top, il n'était pas forcément rapide, c'était plus un esthète, un meneur qui donnait le tempo qu'un joueur de course. Alors là, à 34 ans, ça devient vraiment compliqué. Hein.
Ouais, Valero, son prime, il a quand même 6-7 ans là. Ça commence à faire longtemps qu'il est passé du mauvais côté de la pente. Donc, enfin du mauvais côté de la montagne, même il a pris la pente descendante, alors que jusqu'à ces. Je pense que ces dernières années-là à Fio, c'est le meilleur moment. Mais depuis, c'est. Je pense que depuis qu'il est à l'Inter, en fait, il est arrivé trop tard à l'Inter. Il avait déjà fait ses meilleurs passages. Vecino, c'est un bon joueur, mais c'est quand même un joueur qui, en termes de créativité, ne peut pas égaler des Sensi, des Barella, que ce soit par les déplacements ou par la passe. Puis après, sur les côtés, D'Ambrosio, Biragi, c'est bien, mais c'est le. C'est bien, mais voilà,
Ouais, et encore,
c'est en Ligue des Champions. Ouais,
c'est
parce qu'en
bien,
face, il y avait
c'est pas
Firpo.
mal, quoi, mais c'est pas incroyable non plus. Hein,
Oui, voilà, non, mais c'est pour ça que c'est la mission pour Conte et pour ses dirigeants, ça va être d'apporter de la qualité, que ce soit sur les côtés, que ce soit au milieu, un joueur un peu plus créatif. Parce que Sensi et Barella sont des très bons joueurs. Est-ce que c'est des joueurs extrêmement créatifs? J'en suis moins sûr. Voilà, apporter peut-être sur les côtés plus de qualité. Alors, c'est difficile de trouver des joueurs vraiment de qualité, de grande qualité sur ces postes de latéraux dans un milieu à 5. Il n'y a
Bah
pas forcément énormément de profils.
souvent c'était Candreva hein, qui jouait à droite,
Ouais, bah oui, c'est
qui
ça.
pareil n'a pas. Enfin voilà, il court et il va centrer, mais c'est un profil plus offensif, mais pareil, tu restes sur un truc où c'est pas un top-top piston, quoi.
Donc ça, il va falloir sortir un peu de ce côté scolaire, qui va sans doute te faire du bien en championnat jusqu'à la fin de la saison, mais on a vu sur les dernières saisons que la Ligue des Champions, c'est autre chose, à partir d'un certain niveau.
Mais rien que le fait que le Barça puisse anticiper. Enfin, limite, j'avais l'impression que c'était tellement. Enfin, c'est facile à anticiper d'un côté, mais en même temps, je veux dire, le Barça de Guardiola était relativement facile à anticiper. Il était incapable. C'est difficile de lui imposer un contre-modèle. Mais c'est vrai que là, le Barça qui passe à 3 derrière ça, enfin, tu avais vraiment l'impression qu'ils avaient la solution, que tout le monde pourrait l'avoir, mais que les autres ne seraient pas capables de la mettre en pratique. Mais que là, même avec des joueurs un peu moins référencés, tu pouvais assez facilement casser le pressing et savoir en gros quand te replier et quand est-ce qu'il fallait être un peu plus expansif. C'est vrai que là, pour les latéraux, je vois un peu mon vrac de tout à l'heure, mais quand je vois Lazzari et Lulic, surtout Lazzari du côté de la Lazio, je me dis que c'est meilleur que ce qu'a l'Inter, par exemple, dans ce que ça peut apporter au jeu. Les derniers, donc je les avais mentionnés vite fait, je pensais m'arrêter un peu plus longuement parce que j'avais vu les matchs, mais ça n'a peut-être pas forcément le mérité. Donc l'Ajax, alors pour l'Ajax, se référer à ce que j'avais dit dans l'avant-dernier podcast, je crois, en tout cas celui de débrief de la cinquième journée, on s'était projeté sur la sixième et j'avais dit que l'Ajax m'avait beaucoup déçu, notamment face à Lille, mais que voilà, même le 3-0 de l'aller face à Valence était extrêmement bien payé, que c'était trois transitions et que j'étais vraiment pas rassuré pour l'Ajax, même pour une qualification en huitième de finale. Bah, ça s'est confirmé là-dessus. C'est pas pour dire que j'ai raison, c'est simplement pour dire que du coup, ça se sentait quand même un peu venir. Et que l'Ajax n'était plus forcément l'Ajax, ou n'était pas l'Ajax de la saison dernière. Donc là-dessus, c'est une surprise sans en être une. Là où c'est une surprise, c'est d'être viré par Valence. Mais le fait de terminer avec ce total de points-là ne me choque pas forcément. En plus, parce que l'Ajax n'a pas su saisir ses occasions. Ce soir, il y avait Leverkusen et l'Atlético qui se livrent un duel à distance. L'Atlético ayant battu Moscou, dans tous les cas, le Bayer Leverkusen ne pouvait, n'avait pas son destin en main. Et de toute façon, le Bayer qui a fait 45 très intéressante première minute face à la Juve, avec beaucoup plus d'intensité que d'habitude en Ligue des Champions, ce que je regrettais. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu trop passifs et que tu ne voyais pas que c'était une équipe coachée par Peter Bosz. Là, ils l'ont mise, l'intensité. Malheureusement pour eux, ça a duré 45 minutes. Ils n'ont pas su marquer dans ce temps fort-là et ensuite c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on face la Juve plutôt intéressante sur l'entrée de Dybala. Du coup, tu termines avec Dybala, Ronaldo et Higuain en marquant deux buts. Un but d'Higuain, un but de Ronaldo. T'as au moins une passe, je sais plus qui fait la passe D. Je me souviens plus du deuxième but, mais je sais que sous le premier c'est Dybala qui fait la passe D. Donc ça peut entretenir l'idée que ces trois-là sont compatibles à voir. Mais en tout cas là-dessus ça peut être une piste assez intéressante. Et enfin le dernier match, le dernier point chaud, c'était l'Atalanta. Si Zagreb gagnait et qu'il y avait nul de l'autre côté, Zagreb se qualifiait, voire même si l'Atalanta gagnait, si Zagreb gagnait, Zagreb a mené, finalement a perdu 4-1 face à City. Donc ça se jouait sur le match Atalanta-Shakhtar. L'Atalanta n'a pas été incroyable. Muriel aurait dû prendre un rouge. Je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas, mais tant mieux pour eux. C'était un but refusé pour hors-jeu de pas grand-chose côté Shakhtar. Et un but, une ouverture du score de l'Atalanta pour pas grand-chose non plus sur un hors-jeu qui finalement validé. Donc tout tourne bien. Là où c'est intéressant, c'est que l'Atalanta qui avait commencé de manière catastrophique avec 0 point après 3 matchs. Dans l'histoire, il y a une seule équipe qui l'avait fait, c'était Newcastle qui avait réussi à se qualifier. Le quatrième, c'est un nul un peu miraculeux à City, où la fin de match est intéressante, mais t'es quand même mené 1-0 avec le penalty du 2-0 à devoir défendre que Jesus rate. Finalement, t'arrives à accrocher le nul, et sur les deux dernières victoires, tu peux passer avec un total de 7 points qui est quand même relativement faible. Mais c'est quand même bien parce que cette équipe de l'Atalanta, on aura l'occasion d'en reparler, on a déjà parlé à la fois cette saison, la saison dernière, c'est quand même l'une des équipes les plus séduisantes, à la fois sur le plan tactique, mais aussi sur le plan des idées, même certaines individualités. Je trouve que même les latéraux pistons, c'est pas forcément les postes les plus intéressants du foot. Mais par exemple, un Castagne, je prends beaucoup plaisir à voir jouer. Et bien sûr, il y a Papou Gomez, le numéro 10, qui peut aussi jouer ailier, qui est vraiment un joueur très intéressant. Donc avoir pu passer alors que Zapata est blessé, c'est quand même pas mal.
Et Mario Pašalić, dont on se moquait souvent de la carrière, mais qui va finir en huitième de finale de Ligue des Champions, après avoir claqué je sais pas combien de buts cette saison.
Et Pašalić, c'est mon running gag, je pense que c'est le milieu de terrain qui marque le plus de buts de la tête. J'ai l'impression qu'à chaque toutes les semaines, il marque de la tête. Alors les chiffres prouvent que non, sinon ça serait Lionel Messi et il jouerait pas à l'Atalanta. Joueur assez grand par la taille, mais c'est vrai que Pašalić, pour un mec qui était tous les ans prêté par Chelsea et qui n'était pas légendaire du côté de Monaco, bah il
Voilà.
est là, c'est peut-être pas le meilleur joueur du match, mais en tout cas, il est vraiment très bon sur ce match-là encore. Pas mal de volume de jeu, aussi capable de manier ses pieds. Donc vraiment sympa. Et pas trop de regrets de voir partir le Shakhtar qui, sur le match, a joué. T'avais un attaquant et puis ça balançait des ballons en profondeur pour jouer les transitions.
Shakhtar clairement moins intéressant maintenant que Paulo Fonseca est parti.
C'est ça. Sur les transitions, tu as encore des Brésiliens qui sont capables d'inventer des choses, mais faut profiter de l'espace qui est créé pour faire les différences. Donc du coup, tu dis si c'est pas l'Atalanta en face, mais une équipe qui veut pas jouer, il se passe peut-être rien sur le match. Du coup, c'est une équipe qui a besoin que tu veuilles jouer avec elle pour jouer, et c'est tout de suite un peu moins intéressant. Donc, je ne suis pas sûr qu'on les regrette forcément en huitième de finale. Là, on passe à notre dernier point Ligue des Champions, notre vision pour la suite de la compétition. On a fait une espèce de power ranking avec des tiers, Raphaël,
Des paliers, oui, si,
des
parce que
paliers. Oui,
on
c'est
est
vrai que
très
je francise.
anglo-anglophone et on utilise beaucoup de mots anglais, ce qui énerve une partie de notre auditoire. Oui, des paliers. Alors, on a combien de paliers au total, Christophe?
On
4,
a
5?
cinq paliers. Est-ce que tu veux que je te les donne?
Bon, on va commencer. Tu que dans l'ordre du plus fort d'abord, qui a un
Ouais,
titre.
ouais, ouais. Je te donne le nom du palier, les équipes, et puis
Vas-y.
je te laisse justifier un petit peu notre réflexion en amont de
Dis-nous.
cet épisode. Le premier panier, c'est le panier OK, j'ai peur d'eux, qui comprend le Barça, le Bayern, Liverpool, la Juve, le PSG et le Real Madrid.
Oui, bon, bah, ça semble assez logique. Alors, le PSG, malgré toutes les problématiques qu'on a évoquées, c'est quand même une équipe qui a des talents tels que tu peux avoir peur de les jouer. C'est-à-dire que si un jour ils arrivent à jouer les 11 ensemble avec Neymar, Mbappé, et peu importe le troisième ou le quatrième qui les complète, si tu pars du principe que Neymar et Mbappé, qui sont hyper rapides, qui sont très vifs, se mettent à défendre et du coup participent au pressing, enfin, cette équipe en fait a un potentiel inexploité qui est ultra frustrant, ultra énervant. Mais qui pourrait être la meilleure équipe d'Europe sur 90 minutes si t'en avais deux qui se bougeaient un peu plus les fesses. Donc ce serait bien qu'ils le comprennent un moment et que le club se mette à la page et que tout le monde soit dans la même optique et dans la même poule. Comme ça, je te laisse compléter après sur deux autres et je reprendrai la main si tu veux. Le Real qui semblait un peu perdu en début de saison avec un Zidane qui était proche de la porte et un Mourinho qui semblait tout près de revenir. A été très très bon contre le PSG. Bon, ça, il suffit d'écouter un des podcasts précédents. Commence à trouver vraiment son 11, commence à trouver même ses 14-15, arrive à refaire jouer Isco sur un terrain de foot et plutôt bien. Donc là, c'est une équipe qui, si elle arrive à retomber sur ses pattes et à remettre à l'endroit les joueurs qui ont gagné 3 Ligues des Champions de suite, bah, sera évidemment une menace. Et voilà, tu peux pas les esquiver, surtout quand tu vois le niveau d'un Benzema cette saison. Qui maintenant, même en absence de Ronaldo, est clairement un des 2, 3, 4 meilleurs attaquants du monde et sans doute meilleur que Ronaldo d'ailleurs cette saison et depuis 1 an et demi. Donc c'est une équipe qui en effet fait peur.
Notre deuxième groupe, c'est le Si ça se réveille, qui
Ah
contient
oui.
l'Atlético et Manchester City.
Je pensais que tu allais parler des autres équipes du groupe
Non,
O
je n'ai
qui
pas
fait peur,
envie. Non, non.
mais on n'a pas besoin de justifier de toute façon. Donc oui, le Si ça se réveille, donc on a City et l'Atlético, c'est ça?
Absolument.
Deux équipes au style complètement différent. Oui, parce que City fait une phase de poule réussie, mais dans un groupe qui est le groupe de Manchester City à chaque fois. Puisque depuis que Guardiola est là, ils ont toujours des poules un peu bizarres. Alors, il y a eu une année, je crois, où ils ont le Bayern dans la poule. Ou inversement, c'est quand Guardiola est au Bayern, il a City dans la poule, je sais plus. Mais là, depuis qu'il est à City, j'ai l'impression
Ouais,
qu'ils ont toujours
c'est. Avec
eu toujours
City,
le
il a le
chagrin.
Bayern ou inverse. Enfin, en tout cas, c'est les meilleurs matchs de la saison
Ouais.
pour son équipe. Tu les vois, tu dis, ah, ils vont gagner la compète, et en fait, non.
Ouais, et puis là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a le Shakhtar dans la poule, puis deux autres équipes qui viennent là pour compléter le groupe. Bah, City, parce que quand même, depuis quelques semaines, là, c'est vraiment difficile. Il y a eu des performances sur le plan collectif qui sont inquiétantes. Et c'est une des premières fois vraiment depuis que Guardiola est là que sur le plan collectif, l'équipe est faible. Autant il y avait des matchs où tu disais, ah, ça joue bien, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils arrivent à dominer, et ils sont trahis sur des défaillances individuelles ou des joueurs trop limités. Là, par exemple, le match contre United, qu'on n'a pas eu l'occasion de débriefer, c'est un match ultra inquiétant, mais un match ultra moyen. Donc, c'est pour ça qu'on les met dans Si ça se réveille. Et puis, l'Atlético, pour tout ce que tu as écrit sur l'Atlético depuis le début de la saison, où tu imaginais, ou en tout cas tu souhaitais, et il y avait la rumeur que Simeone allait un peu plus faire jouer son équipe, bon, c'est toujours pas le cas. Là, ils mettent 8 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. En championnat, ils sont moyens. Les recrues, au fil du temps, qui sont arrivées, sont moyennes aussi. Donc, c'est une équipe qui, là aussi, a un potentiel, mais. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'elle va réussir à intégrer ceux qui sont arrivés l'an dernier, plus ceux qui sont arrivés cet été, et les faire jouer ensemble d'ici février? Plus difficile, surtout que défensivement, ils ont l'air moins forts que les saisons précédentes. Donc c'est aussi pour ça qu'on les met dans Si ça se réveille.
Un troisième groupe, on y va au talent. Chelsea, Dortmund et Tottenham.
Ouais, bah c'est des trois beaux effectifs, trois coachs intrigants pour des raisons diverses. Favre pour savoir s'il va réussir à se repositionner quand même quelqu'un sur qui Dortmund va compter longtemps. Lampard, parce que ça a l'impression d'être un bon coach, mais pour autant, Chelsea a un bilan aussi bien statistique que de prestations collectives qui est parfois difficile à analyser. Et puis Tottenham, parce qu'ils ont récupéré Mourinho avec le groupe qui fait finale de Ligue des Champions la saison dernière, Ils ont Lo Celso, Ndombele, Ryan Sessegnon sur le banc. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de tous ces talents? Ils ont quand même des bons joueurs à toutes les lignes. Et on ne sait pas vraiment pour l'instant ce qu'ils veulent faire collectivement et ce qu'ils vont proposer d'ici février-mars. Donc on a mis ces trois équipes-là. On y va au talent parce que c'est trois gros effectifs quand même. Et dans cette Ligue des Champions, ils n'ont pas forcément beaucoup de choses à envier aux deux, trois équipes qu'on a placées au-dessus.
Quatrième, on est déjà content d'être là. Atalanta, Leipzig, Naples et Valence. J'aime bien le fait que tu rigoles alors que c'est toi qui as suggéré les titres.
Non, mais ça me fait rire qu'on mette ça en place alors que c'est complètement plagié sur ce que fait The Ranger. Non, c'est oui, on est déjà content d'être là. Bon, pour l'Atalanta, c'est évident. Pour Naples, c'est évident aussi vu ce qui s'est passé avec Ancelotti cette saison. Et maintenant, c'est Gattuso. Donc, je suis pas sûr. Enfin, les joueurs voulaient plus d'Ancelotti. Je suis pas sûr qu'ils soient ravis d'avoir Gattuso maintenant. Je pense qu'avec certains, ça va être sauvage. Leipzig, parce que sur la phase de poule, ils sont pas grandioses. Et quand tu vois ce qu'ils ont proposé, j'ai du mal vraiment à les voir pertinents sur les plus gros duels ou contre les plus grosses équipes de la suite. Et Valence, parce que c'est vraiment un truc de fou leur saison, où on se disait tous que quand Celades allait arriver, les joueurs qui avaient l'air ultra pro Marcelino allaient l'abandonner, allaient faire en sorte qu'il soit viré rapidement et allaient lâcher la saison. Puis par la force des choses et peut-être la passion quand même du foot et les habitudes du métier, arrive à obtenir des résultats. Ils sont pas loin de la quatrième place en Liga. Ils se qualifient premier du groupe en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est vraiment. On aurait pu lui mettre dans on y va au talent. Et c'est un peu. Ils sont sur les deux catégories, hein, Valence.
Puis Valence qui a Ferran Torres, qui je pense est dans les 5 joueurs que j'aime le plus en ce moment. Donc à tout moment, le petit Ferran peut faire basculer les rencontres de leur côté. Le dernier groupe, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est Lyon.
Oui, bah oui, malheureusement, on était un peu obligé de les mettre. Parce que ils ont, de toutes les équipes qualifiées, c'est ceux qui, collectivement, ont le moins convaincu. Déjà parce que c'est une des équipes qui a changé de coach en cours. Alors, il y a eu Valence, évidemment, qu'on vient de citer. Mais je crois que Lyon est la seule autre qui a changé. Ah non, Tottenham, pardon. Donc, en effet, je me trompe, il y en a trois. Je vérifie s'il y en a d'autres. Non, il y a Munich aussi qui. Mais on ne sait pas vraiment s'ils ont changé de coach parce qu'il y a. Il n'y a pas vraiment de coach en ce moment, c'est un
Bah,
intérimaire donc.
ouais, mais après, attention, c'est un intérimaire qui était quand même l'adjoint de Joachim Löw
Oui, qui a
qui
l'air
avait
d'avoir
une
des
grosse
idées.
influence sur la sélection allemande. C'était un mec, tu vois, c'était pas Guy Stéphane en
C'est-à-dire
France
que
où
est-ce que
personne
ce
sait qui
sera
c'est.
lui en février? C'est ça aussi ma question, tu vois.
J'ai tendance à penser que oui, quand même, parce que les. Alors, j'ai pas vu le match du soir qui est quand même gagné contre Tottenham avec une équipe B. Il termine avec 18 points en phase de poule, mais c'est pas lui qui a ramené la plupart, mais voilà, Bayern est quand même sur. Un bon truc. Là, il reste sur deux défaites en championnat. La dernière qui est surtout due à une mauvaise fin de match, mais pendant une bonne mi-temps, ils étaient largement au-dessus de Gladbach. Honnêtement, j'ai vraiment senti un changement d'attitude, notamment dans le pressing à la perte, l'investissement. Vu que ça attaque en nombre, si tu te relâches à la perte de balle, tu prends des buts. Et c'est comme ça que la plupart du temps, le Bayern coulait sous Kovac. J'ai quand même vu une progression. Après, est-ce que c'est l'effet coup de fouet, changement de coach? Ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, Flick pour un mec totalement inconnu hors d'Allemagne, je pense, et quelqu'un qui, je pense pas qu'il ait déjà eu un poste de numéro 1. Comme je disais, c'était pas Guy Stéphane, donc tu sais pas trop quelle est son influence sur la sélection française. Là, sur la sélection allemande, c'était un peu comme Löw à l'époque de Klinsmann, c'est-à-dire qu'il avait vraiment des tâches très précises, notamment sur les coups de pied arrêtés. Je crois que c'est lui qui convainc Joachim Löw de travailler les coups de pied arrêtés avant la phase finale de la Coupe du Monde 2014, avec le fait de marquer contre la France sur cette phase-là, etc. Je sais pas s'il a la carrure d'un numéro 1, mais en tout cas. Au départ, le comité de direction, là, il y a quelques semaines, voulait en théorie le prolonger jusqu'à la fin de saison, avant de partir, je pense, sur un Ten Hag à la reprise. Disons, je suis pas sûr que tu puisses, en cours de saison, trouver un mec qui puisse correspondre aux standards du Bayern sur le côté, a priori, parler la langue, etc. Puisque les mecs libres, les Pochettino, Wenger, bon, Wenger parle la langue, mais il a
Allegri,
été
tout ça.
écarté. Les Allegri, on est sur du grand coach. Mais à la fois pas forcément le style Bundesliga, et puis en plus pas la langue et pas forcément s'insérer dans l'esprit famille, etc. Donc j'ai quand même tendance à penser qu'il va finir la saison. Après, c'est vrai que c'est difficile de se projeter, mais le Bayern me fait quand même plus peur et me semble plus crédible qu'à un ou deux mois.
Ouais, tout ça pour revenir à Lyon, qui quand même dans une poule de Ligue Europa a été très très très, très moyen. Que ce soit avec le premier ou le deuxième coach. Et puis donc on peut reparler des équipes qui risquent d'affronter, mais donc Juventus, Liverpool, Qui j'avais d'autres? Valence, ça ce serait le meilleur tirage, je pense. City, Bayern. Et voilà, donc c'est les équipes qui peuvent affronter, c'est ça. Donc je vois pas contre quelle équipe ils peuvent passer à part Valence. Je pense que tous les
City.
autres, ils. Oui,
Est-ce
City.
que je suis
J'aurais dit
certes?
avec Genesio, oui, mais avec Garcia, je sais pas. Garcia, son dernier match
Mais
contre Guardiola, c'est le 7-1 ou 7-0, je sais plus.
de manière très sérieuse, très rapidement. Mais est-ce que c'est pas typiquement le match où tu peux, en gros, t'attends derrière, tu lances des contres avec Maxwell Cornet, Bertrand Traoré, tu peux la marquer 2-3 buts en contre-attaque. Enfin,
Oui,
pour moi, c'est la seule équipe où,
mais est-ce que tu vas
quand tu...
savoir défendre contre Guardiola avec
Non,
ce qu'a
non, non.
montré Rudy Garcia sur les gros matchs jusque-là?
Ah non, 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 totalement. Mais je veux dire, sur les autres, j'ai même pas cet espoir-là de me dire j'ai balancé la balle dans l'espace et Cornet va aller marquer parce que City sait pas défendre. Sans que, a priori, Laporte sera de retour d'ici là, et si c'est le cas, ça change totalement la donne, parce que du coup, Fernandinho peut revenir au milieu et ça te fait tout un espèce d'effet domino inversé qui va te mettre dans
Oui,
une
c'est-à-dire
situation
qu'ils
beaucoup plus confortable.
peuvent sauver la Ligue des Champions, là où clairement la blessure de Laporte, plus Fernandinho qui recule, plus les autres soucis ont fait qu'en Première Ligue, t'es à 14 points alors qu'il a manqué que 2 mois. Ça, c'est un peu dur pour City. Oui, c'est qu'en plus, s'ils sont complètement largués en Première Ligue, tu peux imaginer que Guardiola avait encore plus préparé les matchs de Ligue des Champions. Donc bon, à voir. Mais c'est vrai que Lyon, c'était vraiment le. C'est l'invité improbable de ces huitièmes de finale, encore plus que l'Atalanta qui m'avait montré sur les premiers matchs que c'était pas une équipe qui devait prendre 3-4-0 à chaque fois et qui avait la qualité. D'ailleurs, ils le montrent en championnat. C'est-à-dire que Lyon, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue des Champions, ils ont pas fait 3 matchs qui justifient ou qui expliquent le fait qu'ils soient si loin dans la compète. C'est ça qui est amusant.
Oui, alors que l'Atalanta est sixième du championnat, alors que, comme je disais, Zapata, qui plantait but sur but la saison dernière, est quand même absent depuis un petit moment,
Oui,
avec
puis ils sont.
37 buts marqués en 15 matchs,
Ils sont
et on n'est pas
sixième à
en...
4 points de la 3e place.
Oui, à un point de la troisième. Et je pense qu'avec Zapata, ils sont au niveau de la Lazio, et 37 buts en 15 matchs, encore une fois. Donc,
Ouais, oui, 23
c'est
contre.
11 de plus que la Juve.
Ouais, c'est la deuxième meilleure différence du championnat de. Troisième, pardon, meilleure différence du championnat d'Italie. Donc c'est. Enfin, ils sont collectivement beaucoup. Ils sont dans la lignée de leur année précédente, alors que Lyon a changé 2 fois de coach depuis le début de la saison. Enfin, depuis le départ de Genesio, pardon.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure sur cette phase de poule de Ligue des Champions?
Non, non,
Un
non,
bilan
franchement.
général?
Non, bah non, on a déjà fait quelques points généraux sur les équipes qui ne se sont pas qualifiées, qu'on a bien aimé, Slavia Prague, l'Ajax, malgré leur défaite, les équipes comme ça, donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Il y a quelques stats qui sont sortis sur le fait que c'est la première fois depuis longtemps qu'il n'y a que des équipes des 5 grands championnats qui sont qualifiées.
Depuis tous les temps, non? Enfin,
Je crois que
depuis
c'est la
toujours.
première fois. Il me semble que c'est la première fois, ouais. Parce qu'avant, il y avait toujours un Shakhtar, un club portugais, quelque chose comme ça.
Et
Bon,
puis,
là,
il y
du fait.
a une époque où, même en prenant toutes les équipes des 5 grands championnats, tu pouvais pas faire la phase finale parce qu'il n'y avait qu'une ou deux équipes par pays en plus.
Oui, mais oui, c'est vrai. Mais en plus, là, du coup, l'effondrement des clubs portugais, plus l'Ajax qui se qualifie pas, plus Shakhtar qui se fait sortir la dernière journée, fait que bah, tu perds toutes ces équipes-là. Et voilà, c'est un peu la direction dans laquelle la Ligue des Champions s'oriente. C'est dommage, mais bon, ça s'explique par d'autres variables que le resserrement autour des 5 grands championnats. C'est aussi que les 2, 3 autres, là, ces derniers temps, ont de grandes difficultés.
On passe à un petit point de Djibouti. Notre ami Florent Tonuti ne sera pas en direct, en façon de parler, avec nous, puisque le réseau à Kampala, en Ouganda, est un petit peu compliqué. On a essayé d'enregistrer une séquence où je l'interviewais. Pareil, c'était extrêmement compliqué. J'ai l'impression qu'il était coincé dans une machine à laver, donc c'était un petit peu difficile. Donc, du coup, il a fait des petits sons. Comme je disais en intro, je lui ai envoyé des questions pour qu'il puisse un petit peu angler son monologue. Donc voilà, ça dure 6-7 minutes. Il nous parle un petit peu de la vie en Ouganda, de ses tâches, et puis de ce qui se passe au niveau sportif pour Djibouti, qui est en pleine coupe CECAFA, qui est donc une coupe locale avec les pays d'Afrique de l'Est. On écoute ça.
Alors, comment ça se passe en Ouganda? Ben plutôt bien, si on excepte les moments où on doit faire le transit entre l'hôtel et le stade, ou le stade et l'hôtel, où c'est on va dire une gentille anarchie qui sent bon les gaz d'échappement. C'est la partie la plus compliquée de la journée. Après, malheureusement, d'un côté, on est vraiment dans un schéma hôtel-stade, stade-hôtel, voire stade d'entraînement à côté. Donc, on n'a pas l'occasion de voir la vie à Kampala, etc. Et en plus, là, ça va être encore moins le cas parce qu'on va enchaîner des matchs tous les 2 jours. Mais sinon, on est plutôt bien logé, on a ce qu'il faut pour se protéger des moustiques, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et la bouffe est plutôt bonne dans l'hôtel. Donc de ce point de vue-là, ça se passe plutôt bien. Concrètement, concernant les missions sur place, c'est assez simple. Je suis en charge de superviser les adversaires d'abord. Je suis allé voir notamment les matchs de l'Érythrée et de l'Ouganda et du Burundi, alors que Julien, le coach principal, était à l'entraînement avec les joueurs. Donc c'était lundi dernier, puisque nous étions exempts dans notre phase de poule. Donc observation des adversaires, je fais un retour à Julien sur les adversaires. Les veilles de match, comme la veille du match face au Burundi, ben, on se réunit tous les deux et on prépare la causerie, on prépare des circuits offensifs, et on prépare ce qu'on pourrait faire pour embêter les adversaires. Et à côté aussi, au-delà de ce cas particulier, je peux aussi intervenir auprès de lui lorsqu'il faut changer des choses en match, puisque je regarde les matchs depuis la tribune. Et donc, si j'aperçois des choses, à la mi-temps, je vais dans le vestiaire avec les joueurs, on se prend quelques minutes pour discuter tous les deux et puis on corrige ce qui doit être corrigé. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai un exemple lors du match face au Burundi, puisque on affrontait une équipe du Burundi qui avait joué ses deux premiers matchs en 4-1-4-1 et qui avait perdu ses deux premiers matchs, qui du coup n'avait plus grand-chose à perdre par la suite, puisqu'ils devaient absolument gagner pour espérer encore se qualifier. Du coup, ils ont abordé le match en 4-2-4 face à nous, alors que nous jouons en 3-4-3 en phase défensive, avec un pressing assez haut de la part des attaquants et des latéraux qui sont censés sortir sur les latéraux adverses. Tu sais, avec la ligne derrière, le central, si le latéral gauche sort, le central gauche couvre dans son dos et puis le latéral droit à l'opposé revient fermé pour former une ligne de 4. Le problème sur ces séquences-là, c'est que nos latéraux étaient trop hauts alors qu'en face, ils étaient en 4-2-4 et ils ne jouaient que des longs ballons pour déviation de la tête et profondeur. Du coup, nos latéraux étaient pris dans la profondeur. Donc, ce qu'on a fait à la mi-temps, c'est qu'on a changé de système de jeu, en tout cas en phase défensive. Après, avec le ballon, on a gardé les mêmes automatismes. Mais du coup, en phase défensive, on est passé sur une ligne de 5 avec des latéraux qui sont restés bas et on a changé la forme du milieu qui était un 2-1-2, deux milieux, un 10 et deux attaquants. Là, on est passé dans un système avec trois milieux de manière à aller cadrer les latéraux en coulissant sur la largeur et deux attaquants un peu plus haut sur le terrain. Et ça s'est mieux passé, même si sur la deuxième mi-temps, on aurait pu prendre le 2-1 avant parce qu'on a fait quelques cadeaux avec le ballon, parce qu'on essaie de repartir court et de jouer. Donc parfois il y a des cadeaux qui se perdent. Ces cadeaux-là, on a eu la chance de ne pas les encaisser. Finalement, on a mis le 2-1 grâce à un penalty transformé par Madi qui met un doublé aujourd'hui, notre numéro 9. Donc voilà, ça s'est bien terminé. Et voilà par exemple un exemple d'intervention où, en prenant la décision à deux avec Julien, en suggérant à Julien ce changement-là. Voilà, ça s'est fait et on a vu la différence en deuxième mi-temps. Du coup, après ce succès contre le Burundi, on est à 4 points. Dans notre poule, l'Ouganda, qui a déjà joué 3 matchs, est à 9 points et est déjà qualifié. Donc nous, on est deuxième avec 4 points. L'Érythrée est troisième avec 3 points. Et ensuite, tu as la Somalie qui a 1 point et le Burundi qui est à 0. Et du coup, lors de la prochaine journée, donc dans 2 jours, donc ça va aller très vite. Peut-être que ceux qui écoutent ce podcast, d'ailleurs, vont l'écouter un peu en retard parce qu'on aura peut-être déjà joué face à l'Érythrée. Mais bref, on joue l'Érythrée donc dans 2 jours. Du coup, c'est vendredi. Et si on bat l'Érythrée, c'est simple, on est qualifié pour les demi-finales. Demi-finale où on risque de, si on y va, évidemment, c'est pas fait parce que l'Érythrée, je pourrais en parler après vite fait. C'est pas simple à jouer. Et du coup, demi-finale probable, si on se qualifie, ce sera face au Kenya, qui est le favori du tournoi avec l'Ouganda. Ce sont les deux grosses équipes qui, jusque-là, ont des résultats conformes à leur statut, puisque l'Ouganda, comme je l'ai dit, a fait 3 sur 3. Et le Kenya fait 2 sur 2 et joue son dernier match de poule ce jeudi, demain. Et du coup, le programme à venir, c'est assez simple, comme je le disais. Érythrée dans 2 jours, donc demain pour les joueurs. Demain jeudi, c'est repos. Et nous, de notre côté, ben, on va revoir le match face au Burundi, on va séquencer tout ça, on va essayer d'extirper des vidéos à montrer pour corriger pas mal de choses parce qu'il y a eu une entame mauvaise et on va affronter un adversaire qui, justement, rentre très bien dans ces matchs, dans les 2 matchs qu'ils ont joués, ils sont très bien rentrés, donc il va pas falloir se manquer, d'autant plus que c'est une équipe qui rentre très bien dans ces matchs mais qui a du mal en deuxième mi-temps. Donc l'idée, c'est que si on traverse la première mi-temps en étant bien, en jouant bien, on aura peut-être pas mal de chance et fait une bonne partie du chemin vers la victoire et la qualification. Maintenant, ça va être un petit casse-tête parce que l'Érythrée joue très différemment des deux adversaires qu'on a affrontés jusque-là, le Burundi, pardon, et la Somalie. C'est une équipe qui aime beaucoup redoubler les passes avec des joueurs qui vont beaucoup demander le ballon à l'intérieur, notamment un ailier qui rentre et qui participe entre les lignes, alors que jusque-là, on affrontait des équipes avec de véritables ailiers qui restaient côté. Donc voilà, ça va être une nouveauté qui va nous forcer à nous adapter un petit peu. Et ensuite, avec la balle, ils ont un marquage très individuel. Donc, il y a pas mal d'espace à exploiter et d'options à utiliser, mais que jusque-là, on n'a pas utilisé. Donc, ça va être assez nouveau pour les joueurs. Et en plus, ils n'auront pas forcément le temps de tester à l'entraînement, puisque le match arrive vite. Donc, ça va être de la nouveauté et il va leur falloir leur faire comprendre juste avec de la vidéo et du paperboard. Donc, ce n'est pas forcément gagné. Mais on va essayer. Voilà. Et on espère, enfin, j'espère que dans le prochain épisode, je suis pressé de vous retrouver évidemment, mais j'espère que le prochain épisode, j'aurai l'occasion de vous faire un nouveau point, parce que ça voudra dire qu'on sera resté un peu plus longtemps et qu'on se sera qualifié pour les demi-finales. Voilà, allez, ciao.
Et voilà, c'était le petit monologue de Florent. Je
Ah, c'est
suis de
passé
retour.
vite pour nous, Christophe.
Oui, absolument. Car nous avons fait juste un silence de 3 secondes et nous rajouterons ce son
La
de
magie du
Florent au
montage.
montage.
C'est déjà la deuxième fois que je fais cette vanne, hein, d'ailleurs.
Oui, car la première fois, je t'ai insulté. Et nous avons coupé ça au montage que je vais encore faire à 4 h du matin ce soir. Et on passe au vrac. J'espère que tu en as un.
Oui.
Sinon, tu vas réfléchir pendant que je fais le mien.
Non, non, mais on peut même démarrer avec moi si tu veux,
Ah
Christophe.
bah tiens, bah vas-y, tu prends la main. Quel est ton thème?
Oui, bah je lis en ce moment. Alors je lis doucement et vous allez comprendre pourquoi. Un livre qui est en anglais, qui s'appelle Pep City, The Making of a Super Team. Donc évidemment sur le travail de Pep Guardiola à Manchester City. Alors on avait déjà lu récemment, il y a quelques temps déjà, sur la première saison de. Je crois qu'elle était encore en cours, elle venait de démarrer sur l'arrivée de Guardiola à City, le livre de Marty Perrin-Arnaud qui s'appelait La Métamorphose, si je ne m'abuse.
Absolument,
Ça
très
parlait
intéressant pour le coup.
Oui, très bon bouquin, comme le premier d'ailleurs sur ses années sur sa première année au Bayern. Bon là, c'est un livre de deux journalistes catalans, Pol Bayús et Lou Martín. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je ne parle pas catalan. Mais deux journalistes proches de Guardiola qui font un bouquin du coup sur son travail à City depuis que du coup il a remporté deux titres de champion d'Angleterre. Donc ça, c'est beaucoup moins bien structuré que le bouquin de Per Arnaud. Ça évoque des thèmes. Donc par exemple le travail avec Raheem Sterling, le rôle d'Estiarte qui est un peu l'intendant général de City, qui est un ami de Guardiola aussi. Ce que fait Guardiola à Manchester quand il n'est pas en train de penser au football, donc à quel restaurant il bouffe, etc. C'est pas toujours top. Il y a des chapitres très intéressants sur comment, par exemple, Guardiola est arrivé à choisir Zinchenko, pardon, comme latéral, sur le rôle de Fabian Delph, avec notamment, et c'est intéressant parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais le fait qu'un jour Delph coûte un but, genre lors de je ne sais plus quelle rencontre, et que ceci c'est le dernier match qu'il fera avec City, et Guardiola est assez rancunier envers lui, il ne fait plus jouer du tout. Donc sur les dirigeants de City, sur le travail de Biggie Richtein, sur plein de choses. Mais c'est tellement en surface, c'est-à-dire que chaque chapitre fait à peu près, je suis en train de le feuilleter là, 4-5 pages. Donc tu vas jamais assez en profondeur pour vraiment apprendre des choses. Voilà, c'est des trucs intéressants, mais il n'y a rien vraiment de transcendant. Et c'est un peu dommage parce que j'étais content de recevoir ce bouquin. Je l'avais commandé un peu excité quand j'avais vu quelques passages sur Twitter filtrés et des gens en parler. Et je suis un peu déçu là, à la lecture des 120 premières pages de ce bouquin. Donc je referai un vrac sans doute à la fin de ma lecture. Pour l'instant, je le recommande pas. Voilà. J'ai l'impression d'être, comment elle s'appelait, celle qui faisait les critiques ciné dans l'émission de Laurent Ruquier, là, je ne sais plus, Monique. Je suis comme ça, je ne sais plus.
Monique, mais elle existe. C'est une personne connue ou...
Oui, bah écoute, les gens qui écoutaient, on va se gêner, sauront de qui je parle. Monique, je sais plus quoi. Ouais. Je sais pas, un prénom de ce genre-là, parce que j'allais dire Monique Ranou, ça n'a rien à voir, c'est un jambon. Mais c'est pas un top livre. Ouais, Pep City, The Making of a Super Team. T'as l'impression que c'est plein de petits extraits. En fait, t'as l'impression que c'est un livre de tweets, mais de tweets de deux pages, de deux, trois pages. Donc c'est pas fascinant. Voilà, c'était le moment bouquin pour parler en négatif d'un bouquin. Je suis un peu triste de faire ça, mais c'est aussi parce que j'en attendais beaucoup et que je suis du coup très déçu.
Alors moi aussi j'aurais pu faire un moment bouquin parce que j'en ai terminé un il n'y a pas longtemps mais je le garde pour un petit peu plus tard. J'aurais pu aussi parler de la Coupe du Monde des clubs, puisqu'en parallèle du match de l'Atalanta pendant les mi-temps, etc., j'ai réussi à voir une bonne partie de Al-Sadd contre Yingenspor. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Club de Nouvelle-Calédonie qui a quand même réussi à aller en prolongation, alors qu'ils étaient sortis par une équipe de N3 en Coupe de France, il y a quelques semaines. Alors, c'était peut-être pas la même équipe. N'empêche que réussir à pousser l'équipe de Xavi en prolongation, alors qu'il y a quand même des joueurs type Bouneja, Nante, l'ancien Valenciennois, que certains auront des souvenirs de cet
Non.
humain. Gabi, qui est au milieu également, l'ancien de l'Atlético. Mais bref, bon, j'aurais pu parler de ça, mais je vais vous parler très rapidement du fait que je trouve la Lazio très intéressante à chaque fois que je la vois, et notamment depuis quelques semaines. Alors ça, c'est rien de révolutionnaire, parce que les résultats sont très bons. Il y a une série en cours de victoires, il me semble que c'est 7, qui est très intéressante. Et au-delà de ça, au-delà de la Lazio, donc j'ai encore revu là ce week-end face à la Juve, une victoire 3 en étant mené 1-0, un but de Ronaldo et ensuite des buts de Luis Felipe, de Milinkovic-Savic et de Caicedo dans les arrêts de jeu, avec en plus un pénalty raté par Immobile. Je trouve que c'est vraiment une équipe qui maximise les forces de tout le monde. Et en fait, il y a trois joueurs qui ressortent du lot. Alors, il y en a plus, c'est-à-dire j'aime beaucoup Lazzari côté droit, Piston, qui est peut-être pas le joueur du siècle, mais qui va extrêmement vite, qui du coup, grâce à sa vitesse, provoque le carton rouge de Cuadrado, parce qu'il partait seul au but et Cuadrado n'allait pas forcément réussir à le rattraper. J'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? J'aime bien aussi Correa, qui fait enfin des stats après pas mal de saisons où il était bon, mais il marquait pas, il faisait pas forcément de passes décisives. Là, avec 6 buts, il est déjà sur sa meilleure saison statistique. Joaquín Correa, qui est soit deuxième attaquant, soit numéro 10. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'espèce de colonne vertébrale, alors qui n'est pas tout à fait une colonne vertébrale, parce qu'ils sont pas forcément tout le temps empilés, mais qui est quand même l'axe fort, je trouve, encore plus par la passe et le déplacement que Correa, qui est plus dans le fait de percuter, de dribbler, qui est Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Ciro Immobile. En fait, ce que je trouve vraiment très intéressant avec la Lazio, c'est qu'ils arrivent toujours, avec généralement Luis Alberto, qui est meilleur passeur du championnat, il me semble, et qui est vraiment très très bon. Je pense qu'il est destiné à aller voir plus haut. Il a déjà 27 ans, mais je pense que là, c'est peut-être l'année où il va avoir un transfert dans un top top club en fin de saison. Mais c'est toujours réussir à soit servir Milinkovic-Savic dans les intervalles, au sol, mais aussi dans les airs, parce qu'il a un grand gabarit, il a une énorme capacité à contrôler les ballons, notamment sur son but, où voilà, il fait un contrôle aérien en pleine course, il marque derrière. Une vraie capacité à rendre des ballons un petit peu chiants à jouer parce qu'ils sont en l'air, à les contrôler en mouvement et à les remettre au sol, à les rendre exploitables, ce qui est quand même très intéressant pour parfois casser les lignes et pas toujours passer au sol. Mais sinon, c'est cette capacité à servir Immobile en profondeur, et en tout cas à donner à Immobile la possibilité de faire ce qu'il fait le mieux. J'ai l'impression que c'est quasiment la seule chose qu'il sait faire, mais il le fait mieux que personne peut-être. C'est en gros lui donner un petit espace où il pousse la balle, il fait son coup de rein sur 3 mètres et il frappe. Et peu importe l'angle, ça part quasiment tout le temps cadré, pas tout le temps au fond. Mais ça part toujours dans la bonne direction. Et en fait, même que ce soit sur attaque placée transition, ils arrivent toujours à trouver des espaces pour que Immobilier, justement, soit pas forcément arrêté, soit pas forcément en dos au jeu, à devoir jouer en remise. Ils arrivent à, en gros, faire leur tambouille un peu plus bas sur le terrain et ensuite à attirer la défense pour avoir ce petit espace pour que quand Immobilier soit là, bah, il puisse avoir ce petit rush, ces petits 3-4 mètres où il va soit prendre la profondeur et frapper en bout de course, soit lui-même pousser la balle et faire ce déplacement-là après l'avoir touché. Mais en tout cas, 17 buts en 15 matchs cette saison pour Immobilier, qui l'a raté un penalty ce week-end, qui laisse deux penalties à des partenaires, notamment je crois que c'est Luis Alberto la semaine dernière, parce que c'était l'anniversaire de la maman, il me semble. Mais toujours est-il que dans l'absolu, il pourrait très bien être à 20 buts s'il avait tiré ses deux pénaux et marqué le troisième, parce qu'ils sont quand même des stats assez folles. Je pas sûr qu'il y ait plus de deux ou trois joueurs en Ligue 1 qui réussissent à faire ça sur toute la saison. Donc ça confirme aussi que bah, en ce moment, j'ai l'impression que les projets les plus intéressants en Italie, c'est du côté de Gasperini, du côté de Simone Inzaghi, des coachs qui sont en place depuis longtemps et pas forcément ceux qui sont avec beaucoup plus de nouveautés, hormis Conte. Mais sinon, Sarri, c'est pas forcément toujours intéressant du côté de la Juve. Du côté de Milan, ça a déjà changé. Gianpaolo, ça s'est pas très bien passé. Lapioli, c'est pas forcément beaucoup plus intéressant. Il y a que Théo Hernandez qui véritablement m'excite et réussit à faire des différences offensives. La Roma, c'est pas mal avec Fonseca, mais c'est encore moyen là ce week-end. Ils sont assez chanceux de ne pas prendre de but face à l'Inter. Donc voilà, très, très intéressante Lazio. Et puis voilà, pas juste une équipe de contre, une équipe qui arrive à maximiser les forces de ses individualités. Donc j'aime beaucoup. Après ce petit monologue, on passe au pari avec notre partenaire PMU.fr et rappel de ce qu'on disait en début d'émission. Jusqu'à dimanche, donc là on enregistre, on est le jeudi 12, enfin, en tout cas dans la nuit du mercredi au jeudi, donc jusqu'à dimanche 15 décembre, donc il faut écouter ce podcast assez rapidement et pas dans 3 semaines, mais il y a une offre spéciale chez PMU, hein, notre partenaire. Si vous entrez le code VDB au moment où vous inscrivez, c'est-à-dire normalement c'est le code sport, SPORT, et vous l'enlevez et vous mettez VDB en majuscule. Ça marche peut-être en minuscule, mais dans le doute, mettez-le en majuscule. Et ce code vous donnera 3 free bets de 10 € en plus de l'offre de bienvenue. Donc voilà, ça fait 30 € que vous pourrez jouer gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas, pour vous, pour vos amis ou autres, vous mettez le code VDB et ça vous fait 3 free bets de 10 € sur lesquels vous pourrez ou pas suivre les paris qu'on va faire.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris, où je vais commencer par Raphaël. Raphaël, qui a de la Ligue 1 et de la Serie A. Ta Ligue 1, c'est Bordeaux-Strasbourg.
Bah oui, c'était un petit hommage à Florent aussi, qui malheureusement peut pas être avec nous, mais parce qu'il vit de grandes choses en Ouganda avec la sélection de Djibouti. Mais le Bordeaux qui reçoit Strasbourg là ce week-end, Bordeaux qui reste sur un match que j'ai trouvé intéressant par moments contre l'OM, où je trouve que Bordeaux arrivait bien à construire, à trouver des joueurs entre les lignes, notamment dans les 30 derniers mètres. Bon, après, le problème c'est pas où tu les trouves, les joueurs, c'est qui tu trouves. Et c'est vrai que de Préville entre les lignes, c'est pas forcément la meilleure option pour emmener les actions jusqu'au bout. Donc voilà les soucis de Bordeaux, mais ça m'étonnerait pas que Paulo Souza, avec des meilleurs joueurs, le même projet de jeu soit très intéressant et très efficace. Mais là, je vois bien Bordeaux l'emporter à domicile contre Strasbourg. La cote est à 2-10, si je ne m'abuse.
Je
Christophe,
ne t'abuse pas.
tu pourras me confirmer.
Je te confirme.
Vu ce qu'ils ont montré contre l'OM et ce qu'ils montrent ces derniers temps, où il y a des bonnes performances collectives, des joueurs qui commencent à enchaîner un petit peu les buts, je me dis que ça peut fonctionner pour Bordeaux. Là, ils avaient battu Nîmes 6-0 dans un match un peu particulier. Ils perdent contre Marseille, certes, en se créant peu d'occasions, mais sur la capacité à construire et à ressortir, je les avais trouvés bien. Contre Monaco, ils avaient fait un bon match aussi. Contre Nice, ils avaient été intéressants, pardon. Contre Nantes également avant, ils ont quand même du mal à se créer des occasions parce qu'ils ont beaucoup de buts de loin avec des Adli, avec des Hang qui surperforment et leur permettent de surperformer un peu leurs explicit goals. Mais Bordeaux à domicile, vu ce qu'ils sont capables d'être, de montrer collectivement de manière répétée ces dernières semaines à domicile contre Strasbourg, je les vois bien continuer leur saison prometteuse. Alors à voir si elle sera prometteuse et confirmée, parce que Souza a l'air annoncé un peu partout depuis quelques semaines, mais contre un Strasbourg qui a du mal à défendre, qui a déjà pris 23 buts cette saison. Je pense que Bordeaux peut en profiter. Donc une cote de 2-10 pour la victoire à domicile contre Strasbourg.
Ton deuxième pari, c'est Sampdoria contre la Juve.
Oui, la Sampdoria en grande difficulté depuis le départ de Giampaolo. J'ai l'impression que Quagliarella ne marque plus beaucoup cette saison, Christophe, alors que c'était la valeur sûre l'an dernier. Est-ce qu'il avait fini premier des
Ouais, il
buteurs de
avait
Serie A?
terminé meilleur buteur,
Il avait terminé
absolument.
premier. Au grand désarroi de Cristiano. Mais voilà, la Sampdoria cette année, c'est tout simplement 12 buts marqués en 15 matchs. Donc ça fait pas beaucoup quand même. Alors ils sont mal payés offensivement en termes d'expected goals, mais ils sont très fragiles défensivement aussi. Ils sont en grande difficulté. Ils prennent beaucoup de buts par rapport à ce qu'ils concèdent. Quagliarella a mis 3 buts cette saison. C'est autant que Gabbiadini et Gaston Ramirez. Donc je vois bien la Juve l'emporter avec un but d'écart. Enfin, avec 2 buts d'écart du coup minimum, mais avec un handicap de 1, et la cote est à 2,60. Match à l'extérieur pour la Juve, qui ne peut plus trop se permettre de faux pas, parce que ça pourrait permettre à l'Inter de prendre un peu plus d'avance. Donc là, je pense que c'est un match qui sera compliqué pour eux, et c'est un match de quand? C'est un match du 18 décembre, bon, ça c'est un problème. Bon, c'est pas grave, mais en même temps, le match prochain est le 14 décembre pour la Sampdoria, donc ça vient un peu vite. Et les 18 décembre, donc c'est donc mercredi en milieu de semaine. Donc ça va, parce qu'on aura parfait de podcast d'ici là.
Moi, mes paris, le premier, c'est Lyon-Rennes. Le pari, c'est Rennes remboursé si égalité, coté à 3. Pour tout ce qu'on a dit sur Lyon lors de ce podcast, qui est quand même plutôt bien payé au niveau des résultats par rapport au contenu en Ligue des Champions, mais ça ne masque pas le fait que ça soit parfois très compliqué, que l'arrivée de Rudy Garcia n'ait pas forcément changé le font et surtout que bah, tu te rassures là sur le dernier match de championnat en battant Nîmes 4-0. Mais non seulement c'est Nîmes, mais en plus c'est Nîmes avec des joueurs en moins, puisque une expulsion au bout de 5 minutes et une deuxième expulsion à la 40e. Du coup, le résultat est quand même un peu en trompe-l'œil. Et même si Lyon a l'effectif pour faire tourner, malgré tout, je pense que la plupart des joueurs qui ont été alignés là, en milieu de semaine vont à nouveau l'être ce week-end. Et je me dis que, alors c'est un match du dimanche, c'est le dimanche 17h, je me dis qu'en plus, avec une espèce de décompression, l'ambiance un petit peu tendue au niveau des supporters, etc., c'est un match à domicile, ce qui n'est peut-être pas du tout coup une super nouvelle pour Lyon vu la fracture récente avec le public, où t'en viens même à te demander si Memphis, etc., vont encore rester à l'avenir ou si cette fracture avec le public risque pas de provoquer quelques vagues de départ. Je pense aussi que même si j'imagine les joueurs lyonnais professionnels, je pense que tout ça va jouer dans le fait qu'il y ait une mini décompression face à une équipe de Rennes qui va mieux, Rennes qui est quatrième actuellement en championnat avec une série de 3 victoires en Ligue 1 et qui va pouvoir foutre son équipe Z face à la Lazio puisque dans tous les cas en Ligue Europa ils n'ont plus rien à jouer. Donc du coup je pense que le match en milieu de semaine va beaucoup plus peser dans les jambes lyonnaises que dans les jambes rennaises et la dynamique étant plus rennaise, je pense que Rennes peut gagner et au pire un match nul ça me rembourse. Du coup j'ai deux des trois paris qui sont intéressants, enfin deux des trois résultats possibles. Donc du coup voilà, victoire de Rennes remboursée si égalité côté à 3. Le deuxième c'est Nîmes-Nantes. Nîmes-Nantes, mon pari, c'est plus de 1,5 buts marqués par Nantes, côté à 2,25, ce que je trouve vraiment très intéressant. Pas forcément pour l'attaque nantaise, même si je trouve que l'attaque nantaise en ce moment est un petit peu plus dangereuse qu'avant. Alors le fait est que Nantes dépasse rarement les 1 but marqué par match. N'empêche que Koulibaly, je suis encore mi-figue, mi-raisin, mais j'aime assez Moses Simon. Alors ça passe un peu dans tous les sens, mais il provoque tout le temps, il dribble beaucoup. Il a vraiment la capacité à faire qu'il se passe quelque chose, ce qui parfois en Ligue 1 est déjà suffisamment rare pour être noté et assez intéressant. Ça sort un peu les matchs de la monotonie quand ça peut tourner en rond avec de la possession qui ne rime à rien. Et surtout, Nîmes est en pleine catastrophe, à la fois sur le plan des résultats en interne, départ du directeur sportif, etc. Juste donner rapidement les résultats. Nîmes a perdu 4-0 contre Lyon, 6-0 à Bordeaux, a fait 1-1 contre Metz. Voilà, Metz qui est 18e. Défaite 1-0 à Angers et défaite 4-1 à Strasbourg. Donc, du coup, tu te dis que ces Nîmois, ils vont sans doute se relever un jour, mais pourquoi est-ce qu'ils se relèveraient forcément cette fois-ci? Nantes est 6e, Nîmes est 19e. S'il y a bien, si tu es capable de prendre 10 buts en 2 matchs, tu peux bien en prendre 2, puisque plus de 1,5 c'est 2 minimum. Tu peux bien en prendre 2 face à Nantes. Donc voilà mon pari de 25, je trouve ça assez intéressant, parce que le fait qu'une équipe marque 2 buts sur un match de Ligue 1, même si ce n'est pas forcément la norme, c'est pas non plus quelque chose d'inenvisageable. Donc voilà pour moi ce week-end.
Bravo
Raph?
Christophe, c'était très convaincant.
Merci Raphaël. Merci à toi pour cette présence.
Bah oui.
Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de la nuit pour nos auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Alors peut-être à deux, peut-être pas, ça dépend du parcours de Djibouti. Je ne sais plus, on est plutôt en fin de semaine, quoi, non, peut-être pas, on verra, je n'en sais rien. En fait, le truc, c'est que,
Quand Flo n'est pas là, c'est compliqué, hein.
Un, je suis très fatigué puisqu'il est 2h22. Et deuxièmement, c'est Florent qui tient les calendriers. Et du coup, quand il n'est pas là, nous sommes perdus, car nous ne les tenons absolument pas, nous ne les consultons pas, nous ne savons pas. Je sais juste qu'on va mettre en ligne une saga, le dernier épisode de la saga Grèce 2004, sur notre page Patreon,
Oui.
pour nos patrons. Donc déjà ça aura le mérite d'exister. On vous a mis un gratuit d'il y a quelques jours de cette saga, l'épisode 3. En ligne, donc que vous avez pu entendre sur vos plateformes habituelles. On a mis une FAQ également pour nos patrons, donc ça fait déjà beaucoup de contenu. Et donc il y a un gratuit qui reviendra quand il reviendra, mais dans pas trop longtemps. Et puis dans tous les cas, cet épisode-là étant extrêmement long, je pense que ça vous occupera d'ici là. Donc voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair, que je n'ai rien oublié et que tout le monde est très content.
Tu as été parfait, Christophe.
Merci Raphaël, c'est sur ça qu'on se quitte. Et puis je te dis et je vous dis à tous à très bientôt.
Ciao.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.